Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bord du Ring. Ce soir, on va parler de beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent cette semaine en sport de combat. On va parler déjà de Baki contre Doumbé. Ça, c'est jeudi soir, il me semble.
Jeudi soir, ouais, c'est ça.
Jeudi soir. Il y aura ensuite vendredi, il y a Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Gros week-end pour le Cameroun. Ensuite, y a le Glory qui est le samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, l'UFC 299 avec notamment Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier en co-main event. Et le main event, c'est la revanche de Sean O'Malley, le champion bantamweight contre. C'est sa seule défaite d'ailleurs?
Je crois que c'est sa seule
Je
défaite,
crois que c'est
ouais.
sa seule, hein.
Ouais, il me semble qu'il n'y a qu'une seule défaite.
Contre Chito Vera, que j'ai rematé tout à l'heure, et c'est vrai que bon, y a pas grand-chose à apprendre de ce combat.
Non,
Il se
c'est
fait la
court.
cheville tout seul
Ouais.
en environ 2 minutes 30.
Ça va un peu trop vite.
Oui, ça va trop vite. Et il se passait pas grand-chose jusque-là. C'est ça qui m'inquiète d'ailleurs.
Bah ouais, contrairement. Enfin, on y reviendra, mais contrairement à ce que beaucoup de gens disent, que Chito dominait, je sais pas quoi, je sais pas, hein, moi, on voit pas grand-chose en fait. Hein.
Non, il faisait rien pour pas se faire contrer. Bon, on va parler tout de suite, vite fait. Hein. Il faisait rien pour pas se faire contrer et il était peut-être un vague avantage. Mais si on parle de 2 minutes 30 où il se passait pas grand-chose,
Ouais, c'est
parce
ça.
qu'il mettait des kicks dans le mec qui tournait, quoi. Mais qui
Ouais,
sortait pas
voilà.
du tout les points pour pas se faire contrer en anglaise. Donc oui, on peut dire qu'il avait un léger avantage, mais bon, de là à dire que je sais plus si c'était un 3 rounds ou un 5 rounds, ça devait être un 3 rounds.
Ça devait être
Mais
un
là, à dire
3.
que ça aurait duré 15 minutes. Je suis pas convaincu.
Bah ouais, c'est ça, tu vois. Je vois pas ce qu'on peut lire pour en être persuadé.
Ouais, non, parce qu'il a mis deux low kicks de plus, qu'on pas non plus, c'était pas des trucs lourds quoi. Dans une phase d'observation, bon. Mais bref, Baki contre Doumbé, le combat franco-français que moi personnellement je pensais arriverait plus tôt d'ici un an ou deux, mais c'est maintenant. Très intriguant en plus comme combat parce que bah, c'est deux prospects en termes de MMA en tout cas. Avec je crois 7 ou 8 combats Baki. Je pense que ça doit être son huitième.
Ou 9e, mais ouais, quelque
Ouais,
chose comme
moins de
ça.
10 quoi.
Ouais, moins de 10,
Moins
c'est
de
sûr qu'il y
10
a
et
moins de
c'est le
10.
sixième pour. C'est le sixième pour. Oui, sixième pour.
Ouais, il a 5-0. Je crois que c'est 9-0 et 5-0, un truc comme ça.
Ouais, quelque chose comme ça. Bon, Cédric Doumbé, est-ce qu'on a encore besoin de présenter Cédric Doumbé?
Tout cas, pas dans ce podcast, normalement.
Normalement, pas dans ce podcast, mais bon, champion du monde de kick, vrai champion du monde, hein, le champion, le numéro 1, le plus grand kickboxeur français de l'histoire. Ouais, bon,
Ah oui,
peut-être un ou deux mecs
bon, de
qui
toute
discutent,
façon, on
mais
l'a
bon,
déjà redit,
on l'a
voilà,
déjà dit, ouais.
on a dit qu'il est dans la
Mais oui.
conversation, mais pour ceux qui nous rejoindraient, bah, donc on a toujours dit que Cédric était dans
Oui,
la
bref, c'est
conversation
pas
pour être
qu'un
le
mec
plus
qui
grand.
fait des vidéos TikTok.
Voilà, c'est ça.
C'est le point important. Je pense qu'on va pas trop parler de tout le drama autour du combat parce que des fois il peut y avoir un impact psychologique, mais j'ai pas l'impression que Baki ce soit ça lui rentre tellement dans la tête.
Ouais, pareil, moi je suis pas.
J'ai pas l'impression que ce soit un facteur. Je pense pas que. Il y a une pression. Je pense que c'est plus intéressant à la limite de parler de la pression du fait d'être sur la grande scène pour Baki pour la première fois. Même pour
Voilà, c'est
Doumbé, il y
plus.
aura pas eu de scène plus grande, mais il a quand même déjà été champion du monde, tu vois. C'est moins d'attention médiatique en kick, mais c'est quand même lui qui a porté des cartes avant, quoi.
Il a déjà porté des cartes, il a déjà été champion du monde, il a déjà été le centre de l'attention et il a déjà remporté un combat supposé difficile en terrain hostile. Il connaît tout
Oui.
ça. Plusieurs fois. Il connaît tout ça. Et donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, tu as raison. Le focus, il n'est vraiment pas assez mis sur le fait que Baki, c'est sa première fois sur la grande scène. Il vient de l'ARES, sans vraiment. Tu vois ce que je veux dire?
Oui,
Sans
oui, oui.
critiquer quoi que ce soit, il vient de l'ARES et il passe au PFL à Bercy devant je sais pas combien exactement ils ont ouvert le Bercy là, mais
Ouais, mais ça doit être 15-20 000, quoi.
ce que j'allais dire, c'est raisonnable de dire que c'est autour de 15 000 personnes avec un mec qui lui fait un pressing constant là depuis 2 mois. Maintenant, de ce que je pourrais entendre, j'ai l'impression que ça rentre plus dans la tête de l'entourage de Baki que de Baki lui-même.
Oui, ils ont l'air. Ils ont pas l'air.
C'est un peu
Ils ont l'air
dommage.
tendus. Ils ont l'air tendus
Visiblement,
aux
ils ont
autres.
l'air tendus du slip autour de lui, les poteaux et tout.
Mais oui, les
Après.
deux trois interviews que j'ai vues où il en parlait. Après, j'ai pas suivi de très près parce que de toute façon, moi, je sais que je regardais le combat. J'ai pas besoin qu'on me le vende et puis.
C'est ça. C'est vraiment, 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 vraiment.
Mais
C'est
bon, de ce que j'ai
totalement.
vu, ça avait pas l'air. Autant Zebo, tu voyais que il était pas à l'aise avec ça et que ça, je pense que ça a joué un peu quand même. Mais autant Baki, ça a pas l'air d'être un truc qui l'atteint plus que ça, et je pense pas que ce soit vraiment un facteur sur le combat. Non, ce qui est intéressant, c'est que je trouve les deux. Bon, clairement, l'avantage en pied-point va être à Cédric, parce que bah, c'est un des plus grands kickboxers de l'histoire. En plus, c'est un puncher. En plus, je trouve qu'il a vraiment un style. Genre, j'ai rematé toute sa carrière en MMA hier.
Ok.
Je trouve que ça s'adapte vraiment au MMA, en fait, son style.
Ouais, presque comme si on l'avait un peu vu, même si on refusait de le voir.
Ouais, non, non, mais
J'ai...
il y a même des trucs genre sur le fait qu'il a il a un pour l'instant il a été très encourageant bon l'adversité était ce qu'elle était hein,
Certes,
mais
mais il a pu
il
faire.
a été en tout cas sur tous ses échanges dans le grappling je trouve que tout ce qu'il a montré c'est encourageant.
C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Et même les fois où il aurait pu montrer plus, il a eu l'intelligence justement d'identifier le fait qu'il pouvait se
Ouais, mais
relever et s'est relevé.
mais sans montrer une espèce d'aversion au sol que certains mecs ont, tu vois, à vraiment être désespéré de se sortir, tu vois, il s'est remis en
Je vais
position de
oser
sortie.
dire que... Ouais, je vais oser dire que c'était pas Chuck Liddell. Ah ben c'est peut-être ouf, hein, mais... C'est abusé, c'est beaucoup, c'est trop.
Non, non.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, il a pas. Certes, il a identifié qu'il pouvait se relever. Il s'est relevé. Et d'ailleurs, c'est ce que son coach de grappe, Mehdi Hockman, nous a dit chez RMC, qu'ils en avaient débattu et que lui, Cédric, aurait préféré emmener son adversaire au sol. Et lui a dit non, non. Mais tu vois, si tu peux ne pas le faire, ne le fais pas. Et si tu peux te relever, relève-toi. Mais ouais, c'est plutôt encourageant. Et puis, il a toujours eu cette position assez particulière que les autres n'ont pas trop en kick. Donc
Oui, avec les
déjà,
mains assez basses et en plus
voilà.
non, mais il a des bras super grands en fait.
Ouais, il a les bras super longs, il a
Donc
toujours
c'est
été
bien
un
pour
peu bas.
son avance, mais tu vois, ça fait qu'il peut descendre très vite pour comme il a déjà les mains un petit peu basses,
C'est ça.
il peut descendre très vite pour descendre le takedown. Puis en
Ça va
plus, il est
vite.
plutôt athlétique, hein, son sprawl est plutôt pas mal sur ce qu'on a vu. Après, ouais, effectivement, contre des plus gros grappleurs, faudra voir, tu vois. Mais en tout cas, tout ce qu'on a vu dans ça est encourageant. Et pareil, Baki qui est plutôt un judoka à la base. Je trouve qu'il a montré des trucs encourageants en pied-point. Après, c'est surtout offensif, et là, comme le problème pour moi, ça va être défensif, je trouve qu'il a quand même bien le menton en l'air et qu'il est là pour être chopé. Je pense que contre Cédric, si vraiment il y a une séquence de 3-4 minutes, l'équivalent d'un round de pied-point, quoi, ça, à mon avis, c'est très risqué pour.
Non, c'est sûr.
Moins risqué, je pense que le grappling peut l'être pour Cédric contre Baki. Il va pas être à l'avantage, hein, il va pas gagner le grappling, je pense. Mais bah déjà, il a jamais soumis personne.
Bah, c'est un peu ça,
Et
c'est
de ce que j'ai vu de ses combats, j'ai quand même suivi sa carrière. C'est pas non plus ultra dominant, c'est pas du Nurmagomedov en grappling, quoi, tu vois. Avec le
voilà.
qui finit par terre et qui se fait mâcher.
Exactement, exactement. Ou un Khamzat quand il est arrivé, tu vois, et que tu dis, ok, il y a une dominance telle là que c'est compliqué. Vraiment, moi, j'avais pas, j'avais jamais regardé ses combats en live à Baki. C'est simple. Ça veut dire que sa carrière entière, je l'ai pas vu moi en live parce que c'est des combats du jeudi soir et que le jeudi soir, je fais autre chose normalement. Donc, je me suis regardé les combats quand ça a été annoncé, et voilà. Et ma première action, c'était de me dire, ok, c'est pas exactement ce qu'on m'a vendu quand même. On m'a vendu un Khabib, c'est pas un Khabib en fait. On m'a vendu quelqu'un au grappling assez exceptionnel. C'est pas le grappling qui est exceptionnel. C'est la capacité. Je dirais que c'est plus la capacité à mettre de la pression constante qui est forte pour un combattant de son âge. C'est très très fort. Il est très courageux et très résilient et physiquement il est prêt. Donc ça, c'est clair. Maintenant, ouais, c'est vrai. Quand tu regardes factuellement, ça manque de soumission et ça manque de KO. Ça, c'est la vérité. Donc, ça veut dire qu'il ne termine pas spécialement tous ses adversaires
Non, ouais, même
au...
Escudero, qui est un peu son adversaire référence, parce que vétéran de
Ouais.
l'UFC, mais qui était quand même bien cramé.
Pourquoi
D'ailleurs, il a pris sa retraite juste après. Apparemment, il y pensait pendant.
pas?
Il y pensait avant. Mais il a montré des belles choses. Hein. Par contre, il a fait ce que tu dois faire contre un mec comme ça. Mais
C'est ça.
ça a mis longtemps à le terminer alors qu'il l'avait contre la cage et que. J'ai bien aimé. Il travaille bien encore avec son anglaise et tout. La sélection de frappe et tout. Il y a vraiment des trucs que j'ai bien aimé. Mais ça n'a pas l'air de taper très très fort, quoi.
Il fait le taf, mais voilà, ça manque de ces choses-là. Et c'est pas lui faire insulte de le dire, c'est la vérité. De toute façon, c'est normal, il a que 20 ans. Donc, il est loin d'être un produit fini. Et voilà, donc s'il arrive à gagner contre Cédric, ce sera énorme. Ce sera énorme pour lui, ce sera énorme pour sa carrière. Et puis ça voudra dire qu'il s'est grandement amélioré ces derniers mois. Mais voilà, en tout cas, factuellement, si on regarde sa carrière, son début de carrière en tout cas, oui, c'est un excellent prospect en développement, mais qui a encore certains manques. Maintenant, c'est bien qu'il prenne un mec il prend un mec qui a 5-0, mais qui a 15 années d'expérience.
Ouais, et puis en fait, du coup, là, parce que moi, je vois pas trop, c'est possible hein, qu'ils le soumettent, hein, mais c'est pas non plus un truc que je vois comme la conclusion nécessairement la plus positive s'il se passe un peu de grappling. Moi, comme voie pour gagner pour Baki, je vois surtout le tenir contre la cage, l'amener un peu au sol, tu vois, mais grinder, tu vois, vraiment. Et le truc de ça, c'est qu'il faut faire 15 minutes et que potentiellement tu vas avoir des séquences dangereuses, surtout que il amène pas beaucoup au sol par des gros double legs. Et même si Cédric a montré un bon sprawl, je pense que ce serait la solution pour l'amener au sol. Parce qu'en clinch, il est plutôt pas mal Cédric en fait. Déjà en kick, il était fort. Je me rappelle surtout de son KO à Lille d'ailleurs, c'est contre Tongchai.
C'est contre ton chat, ouais.
Ouais, où il le chope en sortie de clinch. Tu vois, il le fait beaucoup en MMA, ça. Toutes les sorties de clinch, il te laisse
Il
pas
frappe.
il te laisse jamais avoir un clinch gratos.
C'est ça, il frappe et il a fait pareil à Nabiev. Il accepte le genou pour le dégommer derrière, avec la droite. Donc, de toute façon, Cédric, là où ça a toujours été fort, c'est que c'est l'opportuniste à l'extrême. À l'extrême. Tu lui laisses 1 cm, il prend le mètre entier. C'est tout, c'est simple, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas tant de combattants que ça qui auraient capitalisé sur faire aussi rapidement ce qu'il a fait à Jordan. On l'a décortiqué la scène, toi et moi, techniquement, la saisie, faire semblant de balayer, boum, tu vois, et pour mettre KO. Voilà, c'est complet. Évidemment qu'il est compétent, c'est un expert dans ce qu'il fait, mais en plus, il est très opportuniste, donc c'est toujours compliqué. Donc, ouais, toi, tu parles quand même de chemin de victoire pour Baki. Mais il faut se rapprocher.
Oui, c'est ça, il va falloir se rapprocher. Moi, je pense que Cédric est favori. Ça me surprendrait pas du tout qu'il y arrive, parce que c'est un très bon prospect et tout, et que mine de rien, même si ce qu'on a vu, c'est encourageant, s'il y a un échange qui se prolonge 3 minutes au sol, je sais pas ce qui se passe pour Cédric. Parce que là, on a eu que des trucs de 40 secondes où il a qu'une fois eu à gérer une position où c'est lui qui se retrouvait au-dessus, qui se retrouvait en dessous, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Je sais plus le nom de l'adversaire, c'est pas très important, c'est le quatrième, je crois. Et c'était le bref. Et ouais, parce que les autres, il engage dans le grappling, mais c'est parce qu'il vient de se sprawler sur un mec et que du coup il part sur le côté pour garder le dos, mettre 2-3 patates et se relever, quoi. Et si c'est lui qui doit avoir à défendre pendant 45, pendant 1 minute, pendant 1 minute 30, on sait pas, du coup. C'est possible. Mais oui, je vois plutôt. Je vois Cédric avoir un chemin plus facile pour sa victoire, lui, parce que bah, Cédric, il lui faut 3 coups, quoi.
Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est pour ça que c'est plus simple à l'envisager. Maintenant, moi, je suis plutôt d'accord. Pour moi, ce serait pas un upset de ouf, c'est pas qui gagne.
Non.
Je le vois pas comme ça en tout cas. Je peux pas dire que je le vois comme ça. Depuis le départ, je donne le même pronom. Je donne l'avantage de l'expérience à Cédric et tout ce qui va avec, tout ce qui implique la grande expérience du combat que Cédric a et la gestion des événements, etc. et ses qualités. Mais voilà. Je suis quand même convaincu que voilà, il ira très haut en faisant le
Bah moi
travail.
je pense qu'il ira même je suis assez sûr qu'il ira plus haut que Cédric quand même.
Bah oui, il a beaucoup plus de temps pour le
Il y
faire
a
et puis
plus de temps pour le faire et il a un profil mais
un
puis de toute
profil.
façon en plus Cédric a plus ou moins acté en enseignant au PFL qu'il irait pas très très haut en termes sportifs en MMA en fait.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'il a déjà 32 ans donc je pense qu'il est au moins au PFL pour 3 ans. Donc ça fait signer à l'UFC à 35, hein, tu peux faire un run, mais c'est plus dur en welter que, qu'en middle ou, en, ouais. ou au-dessus. Et voilà, du coup, je pense pas que je crois pas à une carrière. Genre limite, je crois plus à Cédric qui se foire en MMA et qui revient en kick avec sa notoriété acquise en MMA.
Ah bah ce sera le bon plan.
Moi je préfère, hein, mais que Cédric champion de l'UFC quoi.
Non, ce serait le bon plan.
Et pourtant, je pense pas que Cédric va faire une mauvaise carrière en MMA, tu vois.
Non, c'est pas qu'il fera une mauvaise carrière, mais c'est un peu tard pour faire un grimpage de ranking, plus récupérer quelque chose au PFL, plus plus arriver en free agent et aller à l'UFC, etc. Enfin, tu vois, on n'est pas sur ce profil de carrière là, ça c'est clair.
Non, bah et puis clairement, je pense qu'en signant au PFL, il a montré que il était venu pour coffrer ce qu'il méritait de coffrer.
C'est pour ça que pour moi ça reste surprenant, encore une fois, je le redirai autant de fois qu'il faudra, ça reste surprenant qu'il ait fait ce combat contre Baki. Moi j'ai été réellement surpris.
Oui, moi aussi j'étais vraiment surpris. Après, en y réfléchissant, je trouve que c'est pas idiot de. J'en parlais avec Chapuffy sur Twitter. Je trouve que c'est pas nécessairement idiot de s'établir d'utiliser ce combat-là pour s'établir complètement comme une star en France, en fait.
Ouais. De toute façon, l'opportunité a été vue. Hein. Il est très bien accompagné maintenant avec une grosse équipe autour de lui. Et je pense que l'opportunité, elle a été vue de se dire, ouais, non, mais là, on le fait, c'est bon.
Et après, mon nom comme ça, il est complètement fait ouais. en France. Et du coup, comme ça, tu as une assurance que même si ça foire internationalement en MMA, tu pourras avoir des combats lucratifs en France.
Complètement. Et puis, de toute façon, et au-delà des combats et autres, ouais. Il a déjà complètement percé. Il est parti dans tous les médias possibles mainstream qui existent actuellement.
Oui, ça, c'est si tu vois un sportif qui peut finir dans des trucs de talk show,
ouais, voilà.
invité régulier de télé parce que c'est un bon client.
Ça se monnaie assez facilement. Et puis, pourquoi pas, vu qu'il a toujours eu des vues sur une carrière artistique, bon, bah, après, derrière, transformer oui. l'essai, et voilà.
Oui, c'est ça. Tu fais du coffre pour PFL et tu deviens acteur à 35 ans. Ouais.
C'est un peu ça. Et c'est plus facile de faire du cinéma aujourd'hui. Donc, il pourrait le faire assez facilement, je pense.
Oui, bah, puis pour le coup, il n'a pas non plus un background. Le stand-up, c'est un truc qu'il a vraiment bossé, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est toujours le truc qu'il a voulu faire. Il continue. Honnêtement, la vidéo qu'il a fait là, où il va réserver la chambre
à l'hôpital.
Je suis pas dedans, mais ça me fait rigoler.
Ben oui.
C'est que je te dis, ça me fait rigoler. C'est marrant. C'est marrant. Voilà. C'est pas ma cam de base, mais c'est drôle.
Ouais. Y a Abdul Abdouragimov aussi sur la carte. Je sais pas ouais. si on a quelque chose de plus à dire sur.
Non, mais je suis content que tu le mentionnes, parce que c'est important de le mentionner quand même, je trouve.
C'est un très bon combattant.
Pour moi, c'est le propriétaire du moment le plus. Waouh! Du MMA français. C'est son retournement de situation contre, je ne sais plus comment s'appelait le mec qui était beaucoup plus lourd que lui. Et qui finit par se soumettre au cinquième round. Aratik, je crois.
Aratik, oui, Rafal Aratik. Ouais,
donc, ouais, c'est fort, je l'aime bien, il est cool.
Oui, sympathique.
Ouais. Il est cool, il est sympa, il est marrant. Il arrive toujours à. Je trouve qu'il est toujours. Il est toujours assez juste dans sa communication. Il n'est pas si simple que ça. Donc, ouais, moi je l'aime bien. Et lui, j'en attends.
Lui, pour le coup, en grappling, c'est super fort.
Là, par contre,
ça ressemble beaucoup plus à ce que j'imaginais quand on m'avait vendu.
Exactement. Alors que là, on est face à un grappeur assez exceptionnel. Ouais. Et capable de soumettre son adversaire après s'être fait. Après avoir pris beaucoup pendant 5 rounds.
Ouais. Et il boxe Jack Grant, 19-7, donc un palmarès correct. Je vais pas faire genre que je le connais.
Ah oui.
Ouais, des défaites contre. Il a une défaite par décision contre Machado Garry, c'est la dernière fois qu'il a perdu.
Okay.
Jair Bert, une défaite contre Jair Bert, si Jair Bert me semble-t-il est à l'UFC. Donc oui, et puis sinon, oui, ça a l'air d'être le mec solide de la scène anglaise, quoi.
Ouais, bon bah écoute, c'est le bon journeyman, enfin le bon gatekeeper plutôt.
Ouais, oui, gatekeeper plus que journeyman.
Ouais.
Quoique, un peu de journeyman. Ouais. Parce qu'après journeyman, il y a des gens qui imaginent que c'est forcément un mec à... Pour moi ça c'est pas un journeyman, un mec qui est à 3,40.
Ouais.
C'est plus un can quoi, un mec qui vend des défaites. Un journeyman c'est un mec qui est à 45-37 quoi.
Ouais. C'est ça, alors encore un peu plus à l'équilibre.
C'est un mec qui teste vraiment les prospects, quoi. Un genre de. Bah, Emmanuel Augustus, par exemple.
C'est le premier nom qui me vient en tête, là.
Ouais.
Je crois qu'il termine quasiment à l'équilibre, lui. Hein.
Oui, c'est ça, il doit finir quasi à 50-50. qu'est-ce qu'on disait? Donc oui, je sais pas s'il y a d'autres... c'est quoi la carte de ce... Le reste de la carte de ce PFL. J'avais regardé, j'avais pas l'impression qu'il y avait non plus une carte hyper profonde, même s'il y a un bon main event.
Ah, c'est pas transcendant, c'est un petit PFL Europe
ouais, c'est
où il y a une très grosse tête, c'est tout qui a
Il y a peut-être des gens qui vont émerger dessus, mais clairement, c'est des gens à moins de 10-15 combats européens, les uns contre les autres, c'est porté par le main et le co-main, quoi.
C'est ça.
Mais oui, donc très bien. Et ben, on va pouvoir passer, on reste avec un Camerounais en main event pour Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Un combat qui m'intéresse beaucoup, en fait, finalement.
Bien sûr.
Parce que, de toute façon, Francis a montré contre Fury que c'était un mec à prendre au sérieux en boxe, et pas juste une novelty, comme ils diraient les Américains. Et en plus, pour le coup, je trouve le match-up contre Joshua intéressant parce que y a plus de punch, du coup, potentiellement ça peut être. Il y a quand même une certaine sensation que Fury il a pris un peu par-dessus la jambe la première fois, et je pense que c'est un problème qu'aura pas Joshua.
C'est pas possible, parce que c'est...
Joshua, c'est pas. Bah, déjà, Joshua il a perdu déjà.
Ouais.
Donc il a pas cette espèce de sentiment, et puis en plus même dans le caractère c'est plus un travailleur que Fury
de
base.
C'est un gros travailleur, on sait bien.
Bah, c'est même surtout un travailleur.
C'est surtout ça, et on a toujours dit c'est plus un athlète qu'un boxeur, Joshua. C'est un excellent athlète qui boxe et qui a été au plus haut niveau. Mais c'est ses qualités athlétiques avant tout, donc. Il sera prêt, bien sûr qu'il sera prêt, et puis tu le sens. J'ai regardé par contre là, pour le coup, j'ai quand même pas mal regardé les 2-3 fois où ils se sont vus et qu'ils ont été interviewés ensemble. Et oui, tu sens dans ses paroles, tu sens la vérité, c'est que il craint ce match comme il faut. Il craint ce combat-là comme il faut. La bonne crainte, quoi. La crainte de.
Oui, je sais que c'est normal. Hein. Des fois, tu boxes des mecs et ils font peur. Ils sont forts.
C'est normal. Et c'est la bonne crainte. C'est celle qui te fait lever à 6h du mat pour le footing, etc. etc. Donc, lui, il sera très, très prêt physiquement. Il sera très, très prêt. Maintenant, c'est très différent. Moi, la question que je vais te poser, c'est est-ce que cette différence-là, du coup. Parce que là, la dernière fois, Francis, il a boxé un boxeur. Et la vérité, c'est que si Fury n'était pas un si bon boxeur que ça, il aurait perdu largement ce combat-là, en fait. C'est sa boxe qui l'a sauvé. C'est son style qui l'a sauvé. Là, c'est moins un bon boxeur, aujourd'hui. Enfin, vendredi. C'est à l'avantage de qui? De Joshua ou de Ngannou, pour toi?
Bah, je sais pas, parce que le fait qu'il soit bien préparé, c'est à son avantage. Parce que... Et puis en plus, il a montré contre Ruiz à la deuxième fois que s'il faut boxer derrière son jab toute la soirée et pas prendre de risques, il le fera.
Ouais.
Du coup, il y a ça. Mais après, oui, je pense que c'est un boxeur qui est beaucoup plus susceptible que Fury, en général, de se trouver dans des situations dangereuses contre Ngannou.
Techniquement parlant, on parle. Hein.
Ouais, oui.
Ouais.
Donc, Fury, c'est un problème de. Oui, il aura plus d'application que Fury, mais il a moins de talent, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est important pour moi de faire la nuance, parce que je suis d'accord. Moi, je vais. La vérité, pour moi, c'est à l'avantage de Francis.
Je suis pas en train de. Le match-up en général, si tu prends juste l'aspect technique, oui.
Je dis juste que, voilà, le gap technique il est quand même existant. Évidemment, Joshua, c'est un boxeur, et ce depuis toujours. Mais il est évidemment beaucoup moins grand que celui que quand c'était contre Tyson. Et puis, il y a une donnée bien simple et bien efficace, c'est que Joshua s'est fait envoyer au tapis par des mecs qui tapent supposément moins fort. Ou touchés vraiment bien ébranlés par des mecs qui tapent, a priori, en tout cas, sur le papier, moins fort que Francis.
Oui, je pense que c'est moins fort que Francis. Klitschko, j'irais peut-être pas jusque-là.
Ah non, Klitschko, je pense qu'il tape peut-être
plus. Pareil.
Au moins pareil.
On s'assoit à la même table.
Exactement. Mais tu prends un Ruiz et t'as même Usyk qui l'a vraiment sérieusement ébranlé.
Oui.
Et voilà. Je pense pouvoir m'avancer en me disant je pense que Francis tape plus fort qu'Usyk.
Je pense qu'Usyk sera pas vexé.
Voilà, je pense que ça va aller. Donc ouais, c'est pour moi c'est un peu à l'avantage parce que là on tombe vraiment. Fury, on avait un petit peu ce truc de se dire Fury il est capable de se relever contre un puncher de l'espace là.
Oui.
Et voilà, donc on savait que même en prenant une bonne, a priori, il faudrait vraiment le tuer. Joshua, c'est différent. Joshua, c'est différent. On l'a vu être ébranlé un peu plus facilement que ça. Donc, pour moi, c'est à mettre au crédit de Francis. Mais ça ne veut pas dire que je vois vainqueur, au contraire. C'est pas ce que ça veut dire. C'est parce que, comme tu l'as très bien dit, et c'est là que je vois la chose, moi, et c'est comme ça que je vois les choses se passer, c'est que Joshua, il est capable de boxer. Hein. Même contre Otto Wallin, il l'a montré quand même un peu.
Oui,
Il n'a pas
aussi.
été trop, il a pas été trop là, physique, physique. Il a boxé derrière son bras avant, il a mis en place ses combinaisons, et en fait, il a tranquillement, calmement, méthodiquement détruit Wallin. On ne peut pas parler de destruction contre Ruiz, mais bon, il y avait un vrai
Non.
problème de confiance à ce moment-là. Hein. Je pense que mentalement,
Bon, ouais, je pense que non, mais de toute
il voit
façon,
pas.
il savait que s'il perdait deux fois contre Ruiz,
Voilà, c'était chaud. Donc mentalement, je comprends.
c'était une défaite à 100 millions de dollars, donc.
Donc ouais, il y a des choses intéressantes dans ce combat-là, mais il me hype beaucoup plus que celui contre Fury.
Oui.
Beaucoup, beaucoup plus.
Oui, non, ça va être, ça va, je pense que ça va être très intéressant.
Ouais.
Et ouais, hein, bah écoute, merci Francis de pas t'être laissé faire par Dana White.
Bah ouais, enfin bon. Non, bah il aurait dû accepter, hein. C'est ce que beaucoup de gens disaient, il aurait dû accepter l'offre, c'est ridicule qu'il ait refusé. Combien que c'était déjà?
Oh, je sais pas, mais
La soi-disant plus grosse offre que l'UFC n'a jamais faite à personne.
je sais pas, c'était quelques millions par combat.
Ouais, je sais pas. Hein.
Ça dit qu'il
Je
en
pense
prend 20 là sur celui-là.
qu'il va en prendre 20 en deux combats. Son premier combat, l'a fait en classé dans le top 10. Son deuxième combat, c'est une demi-finale mondiale. Ça va?
Ça va, c'est pas mal.
Ça va, il y a pire. Hein. Carrière.
Non, comme début de
Comme choix de
carrière, c'est
carrière,
pas
et
mal.
pire, voilà.
Ouais.
Comme réorientation, j'ai connu pire que ça, moi.
Ah oui, il paraît qu'il va boxer le mec du PFL aussi.
Il paraît.
Mais ça, il paraît. Ils ont dit, ouais, Inch'Allah, à la fin de l'année, ouais.
Ouais. Selon des rumeurs insistantes. Ouais. Enfin, pour ceux qui n'ont
Oui.
pas vu les images du PFL versus Bellator, où Francis était dans les tribunes, où le. Comment qu'il s'appelle le Brésilien là?
Alors, il a mis KO Bader.
Renan, comme ça. Non, c'est pas
Ferreira,
lui.
quelque
Je me
chose?
trompe. Renan Ferreira? Ouais, ça doit être ça.
Attends. On va vérifier parce qu'on a un podcast professionnel quand même.
Ouais, absolument.
Puis on a vu
Problème.
l'event en plus.
Il s'appelle Problème, je crois. Je crois qu'il s'appelle Problème. Problème A. Un délire comme ça.
Renan Ferreira, ouais, c'est ça.
C'est ça. Ouais, et du coup, bah, en toute logique, vu que pendant 4 jours, ils nous ont dit que le vainqueur de ce combat-là prendrait Francis, bah, fait sauf dans la cage, quoi.
Ouais,
Sauf que
ah mais
Francis,
Francis, il était déjà
visiblement.
parti.
Visiblement, Francis avait très faim, ou était attendu, je ne sais pas, ou peut-être qu'il avait piscine, mais il est parti. Il est parti.
Ouais. On peut dire merci à Ryan Bader d'avoir niqué le run parfait du Bellator aussi.
Ouais,
Dans
complètement.
les
Lui,
match-up.
il fallait que ce soit lui.
Ah non, mais évidemment que ça allait être lui.
Il fallait que ce soit lui. Ouais, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que il a fallu ça pour que les gens se rendent compte qu'au Bellator, il y avait du niveau, mais il y a toujours eu du
Il y a
niveau.
toujours eu du niveau Bellator, ça a toujours été l'organisation numéro 2. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on me disait que le PFL c'était numéro 2 à un moment, hein. Même quand c'était World Series of Fighting, même quand ils avaient vraiment, tu sais, le début de World Series of Fighting, quand il y avait Spong à l'époque. J'ai
Ouais,
vu une
Spong,
vidéo
ouais,
de Spong qui se part avec Rockhold. Tout à l'heure, j'ai une larme qui m'est venue aux yeux en pensant à sa carrière post-2014.
ouais, c'est clair.
Mais il y avait Justin Gaethje, il y avait Marlon Moraes, tu vois, ce genre de mecs-là. Qui sont un calibre de combattants plus meilleur que ce que. Même à cette époque-là, je pensais que le Bellator était mieux. Et oui, non, mais c'est pas une surprise que.
Bah, ils ont fumé,
que le
quoi.
Bellator gagne. Hein. Bellator, il y a toujours eu des bons combattants.
Bah, c'est clair. Et puis, c'était pas des petites victoires, quoi. Ils ont fumé. Hein. En dehors de Kasangana, qui a fait mieux, qui a
Oui.
surperformé, clairement, contre Eblen, qui a peut-être pris le combat un petit peu par-dessus la jambe, parce que déjà, il n'était pas super affûté dans une caté au-dessus. Et puis, apparemment, il passe beaucoup de temps avec une meuf de OnlyFans, je ne sais pas quoi.
Oui,
En
bah
tout
oui,
cas,
bah il luttait pour sa meuf, lui, je crois.
ouais, je
Je sens
pense
que
que.
j'avais vu que c'était prévu qu'elle l'otège
Exactement,
s'il
s'il
gagnait
perdait.
pas.
Ah,
Peut-être elle
Johnny.
l'attache quand même, s'il a galéré.
Ouais. C'est clair. Donc, ouais, non, enfin, c'est petit aparté, mais clairement, oui, Bellator, ça a toujours été fort, il y a toujours du niveau. J'ai vu des tweets un peu étonnés sur l'event, mais non, c'est totalement logique ce qui s'est passé, totalement.
Oui, non, il n'y a pas vraiment de surprise. Bon, Clarissa Shields, décision partagée, j'ai pas vu le combat du coup parce que c'était les prélims. Je suis arrivé à Yoel Romero contre Thiago Santos, moi, combat qui m'a donné envie de me tirer une balle.
Ouais, bah, c'est... Enfin, Romero. Romero, ça fait 6-7 ans qu'il joue à chat glacé. Et on vient m'expliquer à chaque fois, ah, Romero. Il fait ça depuis 6 ou 7 ans. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un combat, genre, avec de l'engagement et tout, Kennedy? Ça
Non,
fait
c'est toi qui.
super longtemps. En plus, il a triché. J'ai beau détester Kennedy.
Non, il a mis KO. Il a mis KO Machida et Weidman après. Non, et puis.
Oui, mais je me rappelle des deux premières rencontres contre Weidman. C'est parce que je m'en rappelle. Autant Machida, s'il y avait de l'action. Mais autant Weidman, c'est pareil, hein, les deux premières rounds. Il y a
Oui,
Weidman
avant qu'il
qui.
met... c'est vrai qu'il y a à moins qu'il mette le genou de côté. Bah après, il y a les combats contre Whittaker qui sont après, tu vois, où il se passe un peu des trucs quand même, le
Ouais, il
premier.
se passe un peu des choses, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Le
Donc,
premier surtout.
voilà, le premier, c'est pas mal. Mais après, contre Adesanya, c'est juste honteux. Et puis en plus, après, derrière, il prend le micro.
Paulo Costa, il y a Fight of the Night. Ça doit pas être que grâce à lui, mais.
Ce qui se fait toucher de ouf au premier, en fait. Après, il montre l'autre côté, et puis après, il le touche,
Ah
il
ouais
fait
non, après
n'importe
le
quoi.
Renault. Bah il met des KO, mais bon, c'est à Melvin Manouf en 2022, quoi.
Non, mais
Respecte-toi.
c'est ça le truc, c'est qu'on sait qu'il est super fort et qu'il met des KO, et que s'il te touche, t'es mort. Mais tout ce qui se passe avant, pendant. Tu...
Ah mais de toute façon, il a toujours fait, tu te rappelles, ses débuts à l'FC, il y a un moment, il met je sais plus combien de KO au troisième round.
Ouais, c'est
Il
ça.
doit avoir, honnêtement, je pense qu'il doit avoir un record de KO au troisième round parce qu'il en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est beaucoup. C'est rare les KO au troisième round en fait.
C'est ça, en fait, et c'est ça. Et donc, sur le papier, tu dis, bah, il a gagné KO au troisième, Raoul, il est trop fort, Romero. Mais quand tu te rappelles les deux premières rounds à chaque fois, tu dis, putain, bordel de merde, quoi. Contre Weidman, c'était un réveil. Et ah, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, ok, je vais nous sauter. Putain, bah, le truc, il a attendu pendant 20 minutes. Il l'a fait, chapeau à lui. Mais là, ça bille. Bon, après, respect, hein, il a 40, je sais pas combien. Chapeau, hein, c'est un robot, il est pas normal. Mais pouf. Moi, je me retape plus un combat de Romero, c'est fini.
Ah oh bah déjà moi la Bellator j'avais lâché hein.
Ouais, plus jamais je fais ça.
C'est bon on est plus
Vraiment.
obligé.
Et
Mais
puis
Vadim
Thiago
Lutkov
Santos.
très fort par contre.
Ah non, lui, il est trop fort, lui. Lui, il
Bah
est trop
déjà
fort.
en 2015 on le savait hein, quand ils ont fait le tournoi du Rising là, il y avait Jiří Prochazka aussi.
Ouais,
Comme quoi,
c'est bien.
je me rappelle à l'époque, on disait putain, ça fait 3 mois ils existent le Rising, ils ont déjà trouvé des light heavyweight mieux que.
Des meilleurs que l'UFC, c'était quand même incroyable. Mais ouais, il est vraiment, vraiment très fort. Ce serait, si jamais Francis décide de revenir, c'est ce combat qui sera intéressant pour tout le
Ah
monde.
oui, moi beaucoup plus que Renan Ferreira.
Ah oui. Complètement, oui.
Non, non,
Parce
oui,
que,
donc.
bon, il y en a eu des autres, hein, des punchers incroyables qui vont rencontrer les punchers. Ils ont tous fait dodo à la fin.
Ouais, n'empêche que c'était quand même très. C'était assez décevant pour un truc qui prétend être la deuxième organisation du monde, le truc.
Franchement, c'était catastrophique.
Ouais.
Le pacing nul à chier, le show de la cage, il faisait sombre. Je sais pas, il n'y avait pas de lumière apparemment. Pas assez d'éclairage. Ouais, même la carte, elle est...
Non, 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 c'était. Bah, bon, il n'y a pas Pitbull, mais bon, ça, il était prévu à la base, mais.
Ouais, bon, je crois qu'il y a eu des changements de dernière minute aussi, mais bon, c'est ouais, franchement, c'était bof, bof, bof. Et je sais pas comment ils veulent faire dans le futur, s'ils veulent garder les deux entités séparées ou pas.
Bah, j'ai l'impression un peu, parce que je crois qu'il y a des Bellator prévus encore.
Ouais, bon, bah écoute, bah, on regardera les Bellator et on regardera
Bah, je
comment
sais pas
ça
si
se
ils veulent
passe.
essayer de faire un truc un peu comme le catch, là, où ils ont SmackDown Hero et.
Ah oui, ouais.
Ce genre de truc là, je sais pas, et faire
Ah.
une espèce de grand truc de la copromotion où c'est pas vraiment de la copromotion parce que tu décides tout, tu sais, mais tu fais le
Ah mais c'est
ça te
ça,
donne
ouais.
la pile de du truc. Ah, on les voit pas se boxer le reste de l'année, et là on va voir quoi. Pourquoi pas, ça peut être une façon de se différencier. Hein. Après, il y a les
Ouais.
tournois, je sais pas si la tournoi ça marche toujours un petit peu. Hein.
Non, y a toujours un attrait pour les tournois. Maintenant, c'est soit vous tu mets les deux rosters dans une boîte et puis tu mélanges pour équilibrer les deux. Et puis après, là, ouais, t'auras de l'intérêt à faire un autre PFL versus 2, 3, 4, 5 et tout, mais avec des rosters plus équilibrés. Soit tu laisses ça comme ça et puis il y a deux produits différents, c'est tout. Hein. Et puis au pire, tu te sers de l'un pour nourrir l'autre. Le problème, c'est que c'est PFL qui a acheté Bellator, donc ils accepteront pas de. En fait, il faut voir s'ils vont signer des mecs au PFL, du Bellator au PFL complètement. Mais Est-ce que tu as envie de voir ces gars-là dans un format
Non, mais je pense qu'à terme,
champion championnat?
je pense qu'à terme, ils vont fusionner les entités et que ça doit être juste être s'il y a, genre, mettons, il y a un contrat de diffusion du Bellator qui court avec je sais pas qui quelque part et qu'il faut qu'ils leur doivent encore 10 events jusqu'à la fin de l'année et puis. Je sais pas.
Ouais, c'est ça. À voir, à voir. Moi, je suis curieux de savoir c'est quoi la suite pour eux, mais je sais pas.
Bah, en vrai, si tu fusionnes le roster du PFL, il y a quand même quelques bons combattants au PFL, hein.
Non, il y en a quelques-uns, mais
Donc,
faut.
t'as moyen de faire un truc, hein. Et si en plus ça continue comme ça à attirer un petit peu plus et de réussir à attirer des mecs un peu plus tôt que Anthony Pettis, par exemple, tu vois. À des stades un peu, tu sais, si t'arrives à les avoir à 29 ou 30 plutôt qu'à 34-35.
Ouais, bah
Faut voir.
c'est pour ça, ça va rester. Leur capacité à être vraiment une force qui peut concurrencer l'UFC, ça va être ça. Ça va être de savoir est-ce que vous attirez les mecs. Tu vois, le Bellator qui s'est attiré un.
Bah, le Bellator, pour le coup, était
Jason
relativement
Jackson, hein, c'est
fort.
ça.
Ouais.
Ah, lui, il est très fort.
Bah puis oui non mais puis le Bellator a toujours été relativement fort pour identifier les mecs tôt et plutôt que l'UFC qui a pas eu besoin de qui s'est surtout reposé sur sa position de leader pour attirer les cons en se disant que de toute façon les mecs ils vont venir la
Ouais.
plupart
Et que même s'ils
alors
font
que
un passage par la case Bellator, ils viendront après, quoi.
ouais. Et puis que, mais tu vois, un mec comme Eddie McKee Junior, tu vois, ils l'ont identifié très jeune, ils l'ont signé très jeune.
Ouais, c'est clair.
Et il a fait quasi toute sa carrière au Bellator. Donc ouais, après, il faut voir si s'il garde les mecs confessés qu'ils faisaient ça.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Parce que c'est pas sûr qu'ils aient encore du taf.
Ouais. Enfin, les Américains. Hein. Justement, je viens de voir que Bloody Elbow, justement, c'était fini.
Oui, je
Un
voulais
peu
en
con.
parler aussi d'ailleurs parce que bon bah pas que parce que déjà j'ai bossé là-bas.
Ah, quand même, hein.
Mais quand même. Mais non, mais je veux dire, c'est pas pour les trucs que j'ai écrits personnellement qui sont particuliers ou que c'est particulièrement important. C'est que Bloody Elbow, c'était un des seuls endroits où t'avais une couverture qui n'était pas de l'access média de l'UFC, quoi.
Exactement.
Qui parlait de bah de du procès de la class action par exemple, c'est
C'est
tout le
ça.
travail de John Nash de Anton Tabuena aussi.
Qui a été supprimé. Bon, apparemment, il y a des archives.
Apparemment c'est toujours archivé
Voilà, apparemment, il y a du web
sur le
archive.
Substack, tous les trucs sont toujours là, mais sur le site qui a été racheté du coup par GRV Media je crois,
Ouais, c'est
qui est
ça.
une espèce de bah, qui est espèce d'une usine à putaclic, hein.
Ah ouais, clairement, ouais.
Ah oui, non, c'est clairement du recyclage de tweets de footballeurs. Ils font surtout du foot à la base. Et c'est vraiment du contenu
Ah non, mais ça va être tel combattant a
star,
tweeté, et puis eux, ils vont faire un article de tel combattant a fait tel tweet.
trois
Voilà.
lignes sur machin. Ce que Bloody Elbow faisait, hein.
Il le faisait, et je m'en agaçais souvent, mais c'était très largement compensé par le fait que ce sont
Bah,
à peu
c'est
près les seuls à avoir couvert, par
que.
exemple, la
Moi,
Class
je voyais
Action.
les stats à l'époque, c'est que ces articles-là, tu étais un peu obligé de les faire pour que ça paye pour
Ouais, voilà.
les autres trucs, en fait.
Ah, mais ça, voilà,
Donc,
quand tu fais les
moi,
deux,
je
bien sûr.
comprends qu'il y avait des réalités économiques qui fait que, bah, du coup, oui, tu es obligé de faire ton article sur le tweet de Conor McGregor parce que sinon, tu n'as pas de quoi
Ça rapporte.
payer le mec qui te fait une histoire du MMA ou le travail d'investigation de Karim Zidane, par exemple, qui est aussi un truc très important.
Ouais, c'est clair, c'est pour ça. Il y avait cet équilibre-là à l'époque. Tu avais ces trucs-là, et puis après, derrière, tu avais les vrais articles, et là, c'était super intéressant. Là, avec ces mecs-là, on a compris.
Et puis ça a lancé plein de journalistes maintenant. Je veux dire, Luc Thomas, ça a commencé là-bas. Jack Slack a commencé là-bas.
Oui, aussi, ouais.
Bref, ouais, non, c'est pas une très très bonne. C'est même une très mauvaise nouvelle pour le journalisme de MMA en général. Et ouais, non, bah. Puis en plus, personnellement, j'ai beaucoup commenté là-bas. J'ai rencontré des potes là-bas, donc. Et puis j'ai bossé là-bas, du coup, je connais des gens qui ont plus de taf. Bon après, moi aussi j'étais viré, hein, mais c'était avant.
Ouais, c'est un...
Bah moi c'était la vague juste avant que ça parte de SB Nation, quoi. Parce qu'ils étaient en indépendant depuis un an et je pense que ça marchait pas trop.
Ouais.
Du coup, ouais, bon voilà, c'est pas une très bonne nouvelle parce que je sais pas qui paiera pour pour des articles de John Nash, par exemple.
Et que... Ouais, ça va être. En fait, ça va être ça. C'est ça qui va être compliqué. C'est que au moins, ça pourrait lui permettre de faire ce travail. Et aujourd'hui, à moins de retrouver une grosse structure
qui bah non,
puisse
oui,
permettre
bah
de
parce
faire
que
ça.
vu le taf que c'est, il va pas le faire si on le paye pas, et c'est normal.
Bah ouais, c'est logique. C'est logique parce que c'est un taf de malade. Hein.
Ouais,
Moi, le
non.
premier article sur la class action, ça m'a pris 3 jours, je crois, pour le lire.
Oh oui, non,
C'est
c'est. Je les ai pas
pas
tous.
déconnant. Ah, je me suis pris la tête et tout parce que je voulais vraiment comprendre et putain, ouais, taf de
Ouais,
fourmi.
non, les documents qui se sont tapés,
Ah
écrits en... C'est pas en anglais, hein, c'est en légalais. Hein.
ouais, non, mais voilà, c'est pour ça, ouais, exactement. Parce qu'en
c'est
plus,
écrit en
après,
avocat. Hein.
et après, ils nous le vulgarisent, quoi, parce que je comprenais déjà le langage juridique français, voilà. Bah, alors, en plus, en anglais, les gars, j'ai regardé un petit peu de New York Unité Spéciale, mais pas à ce point-là. Je vais tout te dire, quoi. Donc, ouais, non, franchement, c'est dommage. Pour moi, c'était mon go-to, en tout cas, pour les news du MMA. Et c'est pour ça que c'est important qu'on le mentionne. T'as raison que c'est important. Il fallait qu'on le dise parce que c'est une vraie bibliothèque qui brûle. Hein.
Ouais, mais non, mais parce qu'il y a plein de trucs. Y a, genre, Tipeee Grand disait que du coup, ses articles sur. Il avait fait une histoire du MMA il y a très longtemps. Hein, ça doit être quand je lisais encore, quand j'étais encore juste commentateur sur ce site. Donc, en début des années 2010, quoi. Et oui, donc t'as plein de trucs comme ça, d'articles historiques. T'avais, bah, John Nash avait écrit des trucs sur le Bar Tzu, tu vois, ce genre de trucs-là. Les protoformes de MMA des
Ouais,
années 30.
exact.
J'ai fait de la traduction d'ailleurs pour lui là-dessus. Mais ouais, donc ce genre de truc-là. Donc ouais, non, t'as plein de trucs qui disparaissent vraiment. Les articles de Snowden, par exemple, t'as des interviews aussi, parce qu'on n'y pense pas aussi en termes de.
Ouais.
C'est tout un truc de source sur l'histoire du MMA qui va disparaître parce que bah il y avait des interviews. Et si tu veux te renseigner sur sur le vieux kickboxing, par exemple, quand il n'y a pas de vidéo, souvent c'est du Black Belt Magazine ta source principale.
Ouais, c'est clair.
Donc, non, 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 c'est inquiétant pour la conservation historique du MMA, en tout cas.
Exactement, exactement.
Et puis
Et
pour le
ben...
journaliste d'investigation, parce qu'il va plus rester grand monde qu'en fait sur l'UFC. Parce que sinon, bah parce que tu peux pas aller aux conférences de presse, du coup.
Ouais,
Pas de
oui,
credentials.
c'est
Ah oui, non,
bien.
c'était blacklisté, Bloody Elbow. Est-ce qu'on a... on a combien de temps d'émission là?
On est
Oh, 42 minutes, ça va.
ça
On va...
va
Oui, du coup, on va pouvoir continuer. On se
enchaîner
demandait si on allait faire d'une traite un seul épisode ou deux avec ce qui nous reste à traiter, mais je pense que du coup, on va passer tranquillement et ça fera un
bah
petit, une
oui
petite heure et demie.
enchaînons
Du
enchaînons
coup, le reste de cette semaine, donc jeudi, c'est Baki contre Doumbé. Vendredi, Joshua contre Ngannou. On lance un pronostic quand même pour Ngannou contre.
Ah ouais, t'es
Ou on
content.
est juste des mecs chiants qui vont dire Joshua par décision.
Non. Je l'ai rêvé. Je l'ai rêvé, Lucas.
T'as vu la lumière?
J'ai vu la lumière. Francis K.O. troisième.
KO troisième. Ah, ouais. Moi je vais dire Joshua par décision parce que. C'est quand même le truc que je vois. Je pense qu'il y a une vraie chance de KO de Francis, mais je pense que. Allez, 6 fois sur 10,
Oui.
c'est Joshua par décision.
Oui, je vais pas te dire que je suis pas d'accord avec toi. Oui.
Voilà. Mais je comprends que j'aurais pu le tenter si j'avais eu envie.
Ah, écoute, j'ai une vision, j'ai un truc, j'ai voilà, une illumination.
Non, mais
Voyons, on
ouais.
verra.
Un petit c'est un 10 rounds ouais 87 87 83 87 83 avec une petite frayeur.
Ouais. Ah putain, s'il gagne, Joshua, il va être insupportable avec le micro. Ouf! Voilà.
On reste avec les poids lourds. On a samedi soir. Je sais pas pourquoi ils ont choisi de le faire ce week-end parce que ça va être dur d'exister médiatiquement parce que qui va en parler à part nous?
Vraiment, moi j'aurais eu l'humilité de repousser. Hein. J'aurais
Ah ouais,
inventé un
non,
truc. Hein.
il faut dire non.
Franchement, j'aurais
Donc le
inventé.
Glory, qui fait son réveil vol du K1. C'est pas exactement le K1 99 hein, en plus.
Ouais.
Ben non, mais en plus, je comprends. Hein, en vrai, je trouve que c'est une bonne idée.
C'est bien ce petit retour aux sources.
surtout ressources, un tournoi à 8 avec les poids lourds. En termes de génération d'ascension, c'est pas une mauvaise idée. L'avoir ce week-end-là, c'est très con. mais dans l'idée, je trouve ça pas mal. Après, bon, le roster étant ce qu'il est, et le fait que les mecs qui font plus de 75 kilos sont plus obligés d'aller en poids lourd, c'est moins bien.
Ouais.
Non, parce que je regardais le roster, là, du coup, on a Verhoeven Laidouni, qui est pas un mauvais combat en quart de finale.
Ouais. Bon.
Je pense que c'est, ça va être assez tranquillement pour Verhoeven. Mais bon, Jorge Endal, tu vois, contre Richters. Richters, pourquoi pas, c'est quand même il y a quand même un petit potentiel, mais même si je le trouve pas non plus.
Ouais, c'est pas. C'est pas un foudre de guerre pour moi.
C'est pas un mec dont je me rappellerai nécessairement dans 30 ans, quoi.
Ah non, non. Non.
Mais ouais, Jorge Endal, c'est vraiment pas ouf.
Oh. Ouais, bah, il a son seul fait l'arme de battre.
C'est plutôt sympa, j'aime bien Osaro, j'aime bien Rajabzadeh à montrer des belles choses en poids lourd.
Ouais.
Kachab contre Adegbouyi, ça commence à se faire vieux, même si Kachab, mais c'est ma tendresse pour les Marocains un peu gros.
Ouais, c'est ça.
Donc ouais, dans l'absolu, je vois pourquoi ils ont fait ce tournoi et le roster, j'ai pas trop de trucs à reprocher sur les mecs qui y sont, quoi. Même si bon, ça aurait été mieux avec un Jamel Ben Sadik.
Non, mais c'est la genèse du roster du tournoi, c'est ridicule, comme jamais, quoi. Bref, on en a parlé de ça aussi.
Ouais. Et puis je regardais, je faisais, oui, en fait, c'est pas le K1-99, mais je disais, mais pour faire l'équivalent du K1-99, il aurait fallu qu'il y ait Alex Pereira et Artem Vakitov au moins, quoi.
Ouais.
Dans ce Grand Prix. Peut-être Israël Adesanya.
Ouais, voilà, aussi, ouais. Tu vois,
et tu te dis, là, tout de suite, ça a plus de gueule si tu remplaces Jorge Endal par Alex Pereira. Et même Kachab, je dis que j'aimais bien, mais Kachab, tu le remplaces par Artem Vakitov. On va garder avec Bouilly, mais même Laidouni, tu sais, tu le remplaces par Israël Adesanya. Bon, tout de suite.
Ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu connais un petit Alex Pereira dans l'eau, et puis on y va.
Ouais. Attends, je voulais regarder sur. Parce qu'il me semble que du coup, c'est. La demi-finale, c'est déjà set-up. Et ce sera Osaro contre. Le gagnant d'Osaro contre Rajabzadeh contre Richters Jorge Endal. Et du coup, du côté de Verhoeven, c'est. Adegbouyi Kachab. Ce qui, je trouve, est plutôt avantageux pour Rico, en fait.
Ouais.
Parce que Adegbouyi, dans son prime, il l'a pas battu.
Ouais, dans son maxi prime où il battait tous les autres.
Oui. Et son maxi prime, ça commence à être loin parce qu'il est sur 3 défaites de suite avec Bouilly.
Ça fait longtemps.
Bah, il approche de la quarantaine.
C'est ça. Et il ne bat plus tous les autres.
Non, oui. Et puis en plus, il a passé 5 ans à, j'imagine, tourner avec Rico. Et du coup, je pense que Rico a complètement. Il avait déjà son numéro à l'époque.
Ouais, mais là, depuis.
Mais alors là, je vois pas.
C'est
je
son
vois
petit,
pas avec Bouilly, oui. Laidouni, je trouve que c'est un combattant intéressant. Après, il a pas de punch c'est pas assez d'être un petit gaucher un peu crafty pour battre Rico Verhoeven.
C'est ça. Je pense qu'il fera un bon combat, mais ce sera un peu juste. Mais ça, je sais qu'il.
Après,
fera
si Rico perd le tournoi, c'est peut-être parce que Sofiane Laidouni l'a emmerdé en quart de finale. Mais il le battra.
Les mecs comme Laidouni, c'est exactement ça qui se passe en fait. C'est que c'est un poids de juste, mais il sera responsable, complètement responsable, si derrière ça se passe mal pour Rico. Parce que ça sera pas un combat, ça pourra pas être un combat. Je vois pas du tout comme un combat facile pour Rico, tu vois. Ça va être. Parce que techniquement, il a toutes les armes. Il est aussi au moins aussi intelligent que lui.
Ouais, j'ai remetté son combat contre Adegbouyi, ouais. C'est très très propre. Le problème, c'est que ça peut pas vraiment, mais.
Il est intelligent, il a un vrai, vrai beau bagage technique, et ouais, voilà, c'est ça, ça manque un poil de puissance, mais pour le reste, rien à dire. Il a sa place, donc. Pour moi, c'est un peu con pour lui, qui s'est appris tout de suite d'entrée, c'est dommage, parce que.
Bah, faut que ça arrive à quelqu'un, tu vois, mais oui, j'aurais préféré que ce soit pas lui, en fait. J'aurais préféré qu'on lui mette Nabil Kachab, tu vois, et puis.
Voilà, parce que je pense que sur tous les autres, il a sa chance.
Oui, je pense qu'il battrait Jorge Endal, il a déjà battu Adegbouyi, du coup je pense qu'il battrait Kachab. Rajabzadeh, je pense que c'est largement sa portée. Osaro, je ne sais pas si...
Osaro, ce serait dur, tu vois.
Je pense que c'est plus dur.
Eric
Dur, ça peut être chiant parce qu'il est vraiment grand, il a ses chances contre tout le monde, et c'est vrai que là, Rico, c'est vraiment le seul... C'est vraiment le seul mec qu'il est garanti de ne pas battre, je pense.
Ouais, c'est un peu ça.
Donc ouais, Adegbouyi, je pense qu'il a quand même encore assez pour passer Kachab.
J'espère pour lui. Ouais.
Ouais, ce serait mieux quand même. Osaro, Rajabzadeh, ça peut être intéressant, même si je pense que, comme Osaro a l'air clairement d'être le numéro 2 maintenant, Rajabzadeh, même si bravo pour l'upset sur Tavares, ça a pas duré assez longtemps pour me dire que c'est vraiment un top poids lourd.
Oui, faut pas déconner non
Peut-être, mais
plus.
bon, je me rappelle de ce que ça donnait contre Maslobojev encore, quoi.
Oui, et puis en plus, il a pas l'air de vouloir changer de style. Il combat comme si il était plus lourd que les autres.
Oui,
Et
alors que bah, en poids lourd, pas du tout. Déjà, en
contre
lourd léger, c'était pas évident.
contre Cookie, ça va pas trop pardonner, je pense.
Oui, contre Jorge Endal, c'était pas non plus brillant.
Ouais, c'est clair.
Jorge Endal qui devrait, à mon avis, ça va rester à distance de kick de Richter, c'est gagner et perdre sa décision tranquillement. Après, Richter, Osaro, ça va dépendre de comment ont été prouvantes les demi-finales, mais je pense qu'on se dirige quand même vers Rico contre Tariq 2.
Bah, ce serait la finale la plus logique, ouais. C'est pour ça qu'ils ont pas mis
Oui.
dans le même braquet. Hein. On sait bien ce qui est voulu et ce qui est espéré. Maintenant, on a vu des tournois où voilà. Hein.
Oui, hein, c'est.
Tout peut se passer. D'ailleurs, c'est quoi la réserve, tiens?
Le réserve, c'est Shiat Kepenick. Le grand turc là
Ouais, je vois. Ouais.
contre Michal Blavzevich, beaucoup de Z et de W.
Très bien.
Blavzevich, que je ne connais pas, il me dit rien. Michal Blavzevich, il a 30 ans, sa tête me dit rien. Il était censé bosser la Inouni, Kachab. Il a perdu. Si il a boxé au Glory, il a perdu contre Jafar Winis. Bon,
D'accord.
en 2022. C'est pas une honte de perdre contre Jafar Mounis en 2022, c'est un peu plus compliqué. Et sinon, ouais, il a battu des Polonais, quoi. Oui, c'est pas un réserve fake qui fait rêver.
Ouais, non, mais pas du tout là. Pas du tout. On va espérer que personne ne se blesse en fait.
Hein. Ouais, Kepenick, je trouve ça correct, mais bon. Ah, bah il a déjà perdu contre Kepenick en plus. Dans deux combats que j'ai dû voir parce que c'était au Glory, donc j'ai dû les voir. Mais vraiment, il m'a pas marqué ce Blavtchevitch.
Ouais, pareil, non plus.
Non, il y a Tijani Bestati contre Henri Coquel qui est quand même le meilleur combat que Glory puisse booker dans cette KT avant, j'imagine, de créer leur structure parallèle là. J'imagine qu'ils vont faire une ligue comme les 65 kilos.
Ben, c'est un peu ça, ouais, visiblement, puisque y a pas de nouvelles. Je peux confirmer de source sûre que pour l'instant, il y a zéro nouvelle en termes de prochain combat à 70 kilos pour les autres mecs du roster.
Oui, non, ça n'a pas l'air parti
Zéro
pour.
news. Voilà. On ne sait pas ce qu'ils font.
Je vois pas trop quel bat de Bestati, on va pas se mentir.
Franchement, je vois pas. Après quel, il nous a surpris des fois.
Ah bah il a battu Alazov.
Voilà. Donc,
C'est le meilleur kickboxer du monde quand même.
quand les étoiles s'alignent, il est capable de faire des très très belles performances. Il a l'air
Bah c'est
d'avoir
un
trouvé un
mec.
style bien, bien plus. Il a toujours été agressif, mais il a l'air de trouver d'avoir trouvé quelque chose qui fonctionne mieux qu'avant.
Bah, il a eu une petite période où il s'est demandé s'il était Georges Petrosian un peu, tu sais, vers le
Ouais.
milieu des années 2010. Et
Ouais, c'est vrai,
une fois qu'il s'est rendu compte que il était gaucher mais il était bagarreur, tout de suite ça a été beaucoup mieux.
Et là, ça fonctionne bien quand il met beaucoup la pression, ça fonctionne plutôt bien. Donc, je pense que ce sera intéressant malgré tout, mais Bestati, il a montré vraiment que dans cette catégorie-là, c'est très, voire trop compliqué dans le battre.
Bah il a quel âge maintenant? 26.
Ouais, dans ces
Comme
eaux-là.
tout le reste de la génération a quand même 4 ou 5 ans de plus, ils ont tous 31-32 minimum. Je pense qu'il y a quand même des bonnes chances que ce soit lui le meilleur de la génération d'après.
Ouais, je pense bien, je pense bien. Franchement, son combat contre Kaito Afi, il me convaincre parce que c'est pas comme s'il avait juste bouffé physiquement, en fait. C'est
Non, non,
vraiment
non, il est très très fort.
très intelligent dans l'approche et tout. Rien à dire.
Après, peut-être qu'il ferme la KT parce que Bestati, il a décidé de monter après, hein.
Bah, ça me surprendrait pas, hein. Il est grand.
Ça, oui, il est grand, hein. Moi j'ai toujours pensé qu'il finirait. Et puis 26, oui, 26, 27, c'est peut-être l'âge où il commence à se dire que ça devient. Parce
Ouais,
que ouais,
ouais.
contre Kaito, ça se voyait quand même.
Ouais, c'est
Du
clair.
coup, oui, ce serait pas. J'y avais pas. Ça m'avait pas encore effleuré l'esprit, mais peut-être que c'est ça.
Ouais,
Ça me surprendrait
t'as
pas en tout
raison.
cas.
T'as raison.
Ça me surprendrait pas en tout cas.
Ça peut être une idée.
Sinon, en moyen, on a Ilias Amouche contre Ivan Galaz. Il a Samu, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais bon, il a quand même besoin d'un meilleur adversaire pour que ça m'intéresse.
C'est clair.
C'est pas un mauvais B-side, il y a sa mouche, mais si c'est le A-side d'un combat, c'est pas ouf. Donéguy Abena contre Tariq Babez. Est-ce que vous avez entendu l'enthousiasme dans ma voix qui pointe à chaque fois que j'évoque Donéguy
Oh là là, j'arrive pas du tout, lui.
Ah non, ouais. Il a un certain talent. Physiquement, c'est très compliqué, mais oh là là, j'y arrive pas. Je déteste le style. Pourtant, tu sais, y a des mecs dont j'apprécie pas nécessairement le style, mais tu sais, au fil des années, j'apprécie. Tu vois, j'apprends à avoir les trucs, à avoir des trucs, à apprécier des trucs dans le style. Mais là, non, ouais,
Ah,
Donéguy
lui, non.
Mena, j'y arrive pas.
Ah, non, lui, non.
Juste.
Vraiment rien là, qui m'intéresse.
C'est raide, c'est. Tariq Babez, pareil, bon, c'est rigolo, mais.
Ouais, bah, c'est le Hollandais ultime. Hollandais marocain ultime.
Et le Maroc. De toute façon, t'as deux choix quand. Non, 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 parce que y a deux options et il n'y a pas de juste milieu quand t'es un Marocain. Marocain hollandais. Soit tu deviens hyper technique, soit tu deviens une giga brute.
Ouais.
C'est Mohamed Charaya ou Fouachabari.
Voilà, c'est ça. Sinon, il n'y a rien.
Sinon, y a rien entre les deux.
Y a pas, entre les deux, c'est le désert.
Mais ouais, non, non, bah, et Tariq Babez a choisi son camp très clairement. Non, oui, c'est pas une. C'est terrible comment je parle du Glory parce que t'as l'impression que c'est un enfant un peu. C'est un peu le dernier de la classe et t'es là, tu dis ouais, non, mais il fait des efforts. Mais... Je l'aime bien, je voudrais bien qu'il réussisse là, mais c'est pas idiot ce qu'il fait, hein, son idée de faire un tournoi de poids lourd là, mais bah oui, non, mais il le fait le week-end où il y a Joshua Ngannou juste avant, quoi. Puis
En
il y a
fait,
l'UFC 299 2 heures après. C'est oui, voilà.
c'est ça. Le Glory, depuis plusieurs années, c'est un pas en avant, trois pas en arrière.
Ah ouais, non, tu te tires des balles dans le pied tout le temps, c'est.
Une bonne idée suivie d'une exécution déplorable. C'est tout le temps comme ça et ça finira pas.
Mais non, c'est ça, même leur idée de foutre les 65 kilos machin, je trouve que c'est une bonne idée, c'est très bien.
Bien
Et par
sûr.
contre, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un événement du Glory qui m'a vraiment marqué en fait.
Ouais, bon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est
Tu
ça.
t'en rappelles, le dernier Glory, c'est passé quoi?
Ah, je sais pas. Je me rappelle plus. Non, vraiment, je me
Bah
rappelle
voilà,
pas.
non, mais si, ça, bah, je vais te le dire, c'est le champion welter contre le champion du TUF Hollande, là.
Ah oui, putain, mais quelle honte.
Donc,
Quelle honte.
ouais, c'est pas évident.
Non, mais voilà, écoute, il ressuscite le tournoi à 8 du kickboxing. Ok, très bien. On verra. On
On
regardera.
verra s'ils en font un
Franchement, on
welter
verra.
avec Tijani Bestati qui monte. Moi, je suis chaud, hein.
Voilà, c'est tout ce qu'il reste à voir. Qu'est-ce que derrière vous allez, est-ce que derrière vous allez entre guillemets capitaliser et faire continuer dans votre logique et faire quelque chose d'intéressant, ou est-ce que ben comme ce sera nul, vous allez vous dire c'est nul, c'est pas une bonne idée.
Bah, ou sinon, faut abolir les. Faut abolir les lourds légers et les moyens, quoi.
Ah mais évidemment, c'est les seules catégories qu'ils ont gardées, quoi.
Bah oui, donc je pense qu'ils le feront pas.
Il est de génie,
Mais
vraiment.
tu vas à fond, quoi. Tu fais vraiment le K1. Tu te dis maintenant, nous, c'est le K1.
Ouais, c'est ça.
Donc, ouais, non, on verra. Bah, Jamal Ben Sali qui revient au Glory 92 en juin.
Ah, ok, j'ai pas vu la news passer. Bon.
Bah, c'est Wikipédia. Wikipédia me le dit en tout cas.
D'accord.
Et ils reviennent le 27 au Dôme de Paris. Le 27 avril. Selon Wikipédia encore.
Selon
Bon,
Wikipédia.
bref. Bon, on pense que Rico il va gagner le tournoi.
Bah, a priori, hein. A
Non,
priori,
mais
il n'a
ça
pas
paraît quand
montré de
même.
signe de vieillesse, de...
Bah non, mais puis pour un poids lourd, il est encore jeune en vrai, il a 34 ans. Hein.
Voilà, il a que 34 balais, il n'a pas montré de signe d'usure.
Bah, il n'a pas non plus eu de combat particulièrement dur. Hein.
Voilà, il a eu un règne assez, lacdanguien. Clairement. Donc voilà, il a l'air toujours aussi intelligent dans sa façon de boxer, d'appréhender son avantage athlétique. Je ne sais pas quand il le perdra.
Bah, pas avant 36-37, hein, je pense.
Bah,
D'ici ce qu'il y a un mec qui les approche
voilà.
ça, et peut-être même 41-42.
Jusqu'ici, tout va bien. Je pense que voilà. S'il perd, c'est un upset. S'il perd le tournoi, c'est un upset. Même pas juste. Enfin, voilà.
Oui.
S'il perd le tournoi, c'est que c'est un gros upset. On n'est pas prêt
Bah,
pour
surtout
savoir
que
qui.
le mec qui a l'air le plus équipé pour le battre, il l'a quand même géré relativement tranquillement il n'y a pas longtemps, quoi.
Bah, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et je sais pas s'il progresse, le Cookie, tu vois. Moi, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est un poids lourd un peu à l'ancienne.
Oui, non, j'aime bien, moi,
Ça...
Cookie Osaro.
Mais ouais, c'est... je sais pas s'il va progresser à ce point-là.
Non, bah, puis, oui. Ah, il a 28, c'est petit encore, moi. Mais est-ce que tu progresses de fou aussi en une... Tu vois, il y a une question de... Tu peux durer longtemps en poids lourd, mais après, arriver à 28, 29, t'es quand même plus ou moins le combattant que tu vas être,
Bah
quoi.
c'est ça, pour moi, ça y est, t'es produit fini, il n'y a plus grand-chose.
Oui, c'est surtout que tu peux durer au top de la KT plus longtemps en poids lourd
C'est ça.
que... Tu vois, c'est pas, tu continues pas à progresser plus longtemps que les autres, en fait. À moins que vraiment t'aies commencé tard, mais même ça... Oui, donc oui, ce sera bon, bah, victoire. Au moins, j'avais peur parce que je croyais qu'au début c'était le samedi, genre en Arabie Saoudite, le combat de Francis, et je me suis dit, mais ils l'ont pas booké vraiment en face de Francis contre...
Ouais.
Parce que s'il y avait Francis contre...
Non, mais là, ils étaient morts. Toi.
Là,
C'était fini.
c'était fini, il fallait annuler l'event. Tu
Bah
disais
oui,
non,
là,
bah non, on va le faire ailleurs.
clairement, tu repousses et puis tu restes humble, c'est tout.
Mais bon, ouais, j'espère qu'ils vont réussir à se faire une place, mais bon. Pay-per-view comme ça, avec j'ai des doutes.
Ouais,
J'ai
de
des
gros doutes.
doutes.
Ouais. Gros doutes.
Bah, surtout qu'à la limite, si t'avais, si Cédric est encore là pour venir faire attirer un peu, tu vois.
Ouais,
C'est pas
quelque
vraiment
chose, ouais, quelque
de... Je
chose.
pense pas que Bestati, ça ramène des foules de fans de MMA, tu vois.
Non, et puis là, on est dans la Fight Week, je sais pas. Après, je suis pas ultra connecté, mais j'ai rien vu passer, hein.
Ah mais de toute façon personne n'en parlera parce que tout le monde parle de... T'as trois autres énormes events.
C'est ça, donc ils essayent même pas un peu.
Tu peux pas exister médiatiquement cette semaine. C'est pas possible.
Ouais, c'est mort.
Du coup, l'UFC maintenant? UFC.
L'UFC, ouais.
UFC 299. Alors, le main event. Sean O'Malley qui défend son titre contre Marlon Vera dans une revanche. Le co-main event, Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis. Le reste de la main card, Kevin Holland contre Michael Page.
Ah, je voulais, écoute, c'est les
T'avais
débuts.
zappé cette news?
J'avais complètement zappé que c'était ses débuts sur cette carte, oui, c'est vrai.
Et oui, Michael Page, oui. La
Ah
légende.
oui. Le prospect le plus vieux de l'histoire.
Ah ouais, ça fait longtemps,
Prospect
quoi.
de 35 ans quand même. 38, je sais même pas quel âge qu'il a.
Il 4, 36.
Ah ouais.
87. Gilbert Burns contre Jack Della Maddalena, pardon. Excellent combat, ça. J'ai très hâte. Patian contre Song Yadong. Très bien aussi.
Ouais.
J'aime beaucoup cette carte.
Oh, mais la carte elle est vraiment
La carte
géniale.
est très bien. En plus, Curtis Blades, donc un poids lourd plutôt pas mal quand même sur les prélims. Gamrot contre Dos Anjos et Pedro Munhoz contre Calor Phillips. Même les prélims sont plutôt pas mal.
Ouais.
Donc, non, ouais. Il y a Michel Pereira sur les tout premiers prélims aussi.
Notre gars, bien sûr. Oui.
Ouais, mais attends, c'est pas un gars contre qui il a perdu ça, Michel? Il a pas perdu contre ce gars-là? Ah non, c'était pas lui, c'était contre Tristan Connelly qu'il a perdu.
Ok.
Mais oui, il est monté en moyen du coup, parce qu'il avait encore loupé le poids la dernière fois. Bref, le main event, Sean O'Malley contre Marlon Vera. Bah on en a parlé un petit peu en tout début d'émission, ça commence à faire longtemps maintenant. Oui, j'ai pas trouvé qu'il y ait grand-chose à apprendre du combat, si ce n'est que j'ai un peu peur que ça tourne au combat de regard.
Ouais.
C'est à qui Marlon Vera qui laisse un peu venir et qui punit quand O'Malley tourne un peu trop avec des low kicks qui vont toucher avec le pied parce qu'il va être un peu trop loin. Tu vois, un peu un remake des premières minutes du combat. Fait un peu peur. Même si O'Malley, même c'est bizarre parce que c'est une fois qu'il s'était fait la cheville, a essayé d'attaquer un petit peu. Bon, bah, c'est pas bizarre, c'est parce qu'il savait qu'il lui restait, c'était maintenant ou jamais. Mais bon, Du coup, il y a peut-être une chance que ça s'emballe, mais ouais, j'ai un peu peur que O'Malley attende très très longtemps le contre et que ça fasse un combat de split décision à la décision partagée à la fin avec des débats de d'épicier de mecs qui vont compter des frappes et qui vont faire
ouais,
frame par frame, par frame par frame. Tu vois, je sens bien le truc comme ça.
48, 48, ton lit, ouais. Sûr.
Mais non, mais il a 114 frappes à 112.
C'est clair.
Donc ouais, j'ai un peu peur de ça, même si bah, le truc c'est quoi, c'est la différence de taille qui fait que je pense que Marlon Vera va pouvoir vraiment faire ce qu'il fait bien d'habitude contre d'autres mecs.
Ouais.
On va dire le clinch un peu, j'aime bien son clinch, j'aime bien ses coups d'en sortie, ce genre de truc là. Son travail de taille un peu, mais là ouais, j'ai un peu peur que ça tourne mal. Je sais pas ce que t'en penses.
Non, j'allais dire que j'ai passé du temps à sous-estimer Sean O'Malley. Je ne sais pas si j'ai sous-estimé ou plus que je l'ai trop ignoré. C'est plus ça, en fait, le truc. Je n'ai pas regardé ses combats, en fait. Que j'ai pas... J'ai regardé ses combats, c'était déjà trop tard. Si tu veux. C'était Petr Yan, je crois. C'est quoi, avant
Bah avant, ça devrait être Vera, mais...
Ouais, non, mais je crois que j'ai Petr Yan, hein, où je suis sûr qu'il va perdre et qu'au final, bah, il me surprend.
Oui, il est fort, hein.
Ouais, et puis de là, je comprends qu'en fait, c'est un bon combattant, quoi, tu vois. Donc c'est déjà un peu trop tard. Je peux pas dire que je savais, que, etc. Non, pour moi, je ne m'y suis pas intéressé. Et Marlon Vera, c'est pareil, c'est un peu bizarre. J'ai vu, je pense que j'ai vu plein
Marlon
de
Vera, il a un culte de gens qui prétendent qu'il est beaucoup plus fort qu'il est.
Ouais, mais il faut arrêter, bêtises. Y a rien de plus factuel qu'un combat, hein, qu'un sport de combat, en fait. Vous voulez quoi de plus? Ta carrière, elle est en face de lui. Et ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. C'est pas, je sais pas moi, Jawad Zahiri. C'est pas, oh, il aurait pu être super fort. Non, c'est pas du foot. Combat, c'est le combat. À un moment, si t'as pas gagné les combats, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas parce qu'à chaque fois, il y a eu un problème de pesée, de poids, de préparation, de potentiel. Bah, écoute, ta carrière, elle est devant toi. Ta carrière, c'est ta carrière. Tu peux nourrir des regrets sur des boxeurs comme. Comment il s'appelait le boxeur qui était fort là, le russe Pirog.
Pirogue, oui.
Voilà, tu peux nourrir des regrets sur des mecs comme lui. Tu sais qu'il aurait
oui,
été
il
loin.
Était fort.
Voilà, il était super fort. Tu sais qu'il aurait été loin. Mais des trucs comme ça, non, je sais pas. Je trouve qu'il est pas mal. C'est un fun fighter. Quand il a dû tabasser des mecs, il a dû tabasser, il l'a fait. Et ça comprend Dominique Cruz.
Oui, et puis il a mis Franca au fond qui est de guerre aussi. Il a battu Rob Font, voilà. Ce que je pense c'est sa meilleure défaite, sa meilleure victoire.
C'est pas.
Il a
c'est
des
fort,
bonnes victoires, hein, il est fort. C'est pas
fort.
Que.
C'est fort,
il y a vraiment
une
bande sur Twitter qui. Qui te le vend comme vraiment un top 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 fighter et je pense pas, c'est un bon contender quoi.
Ouais, mais est-ce que c'est encore les mêmes?
Oui, oui,
oui. Oui, bon, c'est normal aussi. À chaque
bah
fois,
après,
il leur faut.
Après, je sais que l'hipsterisme, j'ai rien contre. Hein. Mais vous allez loin avec Marlon Vera.
Ouais, mais voilà, mais il faut toujours en trouver un et qu'il serait supposé trop fort et qu'il n'y a que eux qui voient qu'il est trop fort et que nous, on voit rien parce qu'on est des grands nazes. Ouais,
non, bah c'était Rafael Assunção. Pour le coup, il était fort, Rafael Assunção.
Ouais, il était fort aussi, mais c'est pareil. C'est un mec qui, au final, il est à sa place. C'est un sport qui... Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Dans ce sport-là, tu vois.
Il y a des injustices en sport de combat, mais elles sont pas nécessairement... elles sont plus en boxe, déjà. Parce que tu as quand même la chance à l'UFC que ça te prendra peut-être beaucoup plus de temps que certains.
Oui.
Mais en général, tu peux y arriver.
Tu vas y arriver. Quand je dis qu'il n'y a pas d'injustice, il y a des vols et tout. Ce que je veux dire, c'est que à la fin, ta carrière va beaucoup ressembler à ce qu'elle devait être.
Oui.
Il faut que je réfléchisse beaucoup là pour trouver un boxeur qui s'est fait tellement voler que sa carrière a été transformée.
En MMA ou juste en boxe?
Franchement, qui tu veux?
Ouais, après, il y a pas... Masvidal, un petit peu. Je peux te demander, après, c'est pas si...
Ouais. Ça a retardé, en tout cas.
Ça a retardé son explosion en train de...
Ouais,
oui, peut-être sur le champion, bref.
Il aura plus de une ceinture, probablement. C'est qui se fait voler? Contre qui se fait voler, déjà?
Oh, il y en a contre Ben Anderson, il se fait bien voler.
J'en ai
si
un qui me revient plus,
bien
là.
Contre... Attends, on se remet.
Il y en a qui est flagrant, mais qui me revient plus, là.
Après, bon, son style se prêtait aussi aux décisions partagées.
Ah, c'est pas Yakinta?
Si, Yakinta,
ouais,
c'est peut-être le pire. Ouais. Contre Khabilov, moi, je trouve que ça se discute aussi, mais apparemment, je suis le seul.
Ouais. Moi, je crois pas l'avoir vu, celui-là. Je saurais pas te dire.
Ouais, non, Larkin, c'est une édition partagée, mais pour le coup, je pense qu'il a perdu.
Ouais.
Mais bon. Mais oui, c'est surtout l'enchaînement Yacuinta, Benson, Anderson, alors que. Bon, après, tu me diras, ces victoires, elles sont pas si ouf, en fait, à ce moment-là, mais. Mais qu'il aurait battu Dubois, Yacuinta et Ben Anderson. Parce que Ben Anderson, tu gagnais Ben Anderson, à mon avis, il avait un combo pour le titre.
Ouais, c'est vrai. C'est clair. On peut le mettre. On peut le mettre à son crédit. Enfin, son début plutôt.
Non, mais après, oui, t'as les mecs qui n'ont pas eu d'opportunité, tu vois, genre t'as Laszlo Papp en anglaise, par exemple.
Ouais, t'as des mecs qui vont pas avoir l'opportunité, qui auraient pu, qui auraient pu être meilleurs que le champion. Mais voilà, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et en MMA, encore moins.
Oui, bah en MMA, comme t'as quand même moins d'influence. Si t'es à l'UFC et que tu gagnes des combats, normalement, bah si t'es plus ou moins une star, ça va t'en prendre 3. Et si t'es des victoires de suite, je veux dire. Et si t'es un mec qu'ils aiment pas trop, bah il va falloir en gagner 7.
Voilà,
Mais
c'était
il y a
un.
des injustices là-dessus. Mais dans l'ensemble, si tu continues à gagner, tu vas être à ta place.
Ouais, normalement, ouais, voilà. Et puis à la fin, ta carrière ressemblera à ce qu'elle devait être. Donc, voilà, je me dis que maintenant, c'est compliqué pour moi de dire que Sean O'Malley, c'est un champion talentueux, il est fort. Donc, je pense qu'il a sa place aussi et que c'est à Marlon de prouver qu'il est meilleur que ce qu'il a montré, que ce que j'ai vu, moi, en tout cas.
Ouais, non,
Voilà.
mais ouais, bah pareil, moi je vois bien, O'Malley par décision, mettons. Mais j'ai peur que ce soit un peu chiant. Par contre, j'ai pas peur que le co-main event, j'ai assez peu de doutes, ça va être bien.
Ouais, oui.
Parce que le co-main event, c'est Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis. Et on peut accuser aucun des deux de faire des combats chiants.
Ouais, non, mais là, ça va être la guerre. Je vois pas comment, dans quel monde, c'est pas ça.
Non, je vois pas dans quel monde c'est pas la guerre. Poirier meilleure anglaise du coup, parce qu'il a plutôt une très bonne anglaise, assez dure en plus. Tu sais, soit sa façon de chercher des combos de deux et des combos en switchant, tu sais, beaucoup de
Ouais,
switch de garde et
en
de.
avançant, ouais, changement de garde, ouais, il fait ça très très bien. Où il avance avec sa droite et puis il change pour donner une gauche, pour
Ouais.
donner plus de points encore.
Il y a un côté qui m'inquiète un petit peu, c'est que il pense qu'il est meilleur défensivement que ce qu'il est.
Il pense vraiment qu'il est Willy Pep,
Ah, il est assez
hein.
convaincu alors que en fait il esquive la première et il prend la deuxième et la troisième.
Ouais, souvent. Et puis son finisher, il existe, mais il n'est pas souvent sur
Bah
l'efficace.
le crochet gauche il passe souvent. Bon là ce sera moins un problème parce que c'est gaucher contre gaucher.
Et Connor, il a beaucoup touché avec des directs du gauche, tu vois.
Ouais. Oui, et son middle là c'est.
Ah, c'est quelque chose, hein.
Ah c'est du middle que tu t'entraînes avec que dans des mecs à genoux et qui sont attachés les mains dans le dos ça.
Ah, mais c'est un middle de fête foraine. C'est pas. Et puis il insiste, hein, contre Geji, putain.
Ah ouais, il le sort tout le temps.
Il envoie, il envoie, il envoie. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Après il y a un truc qu'il a fait pas mal avec, c'est que bah il l'envoie trop fort pour pouvoir combiner quoi que ce soit avec. Mais il y a un moment où du coup là il le feinte derrière et il met la gauche qui est pas mal. Mais sinon ouais non c'est. Je sais pas pourquoi il l'envoie vraiment, c'est vraiment c'est un middle des meutiers quoi.
Ouais, vraiment, ouais, c'est un coup de pompe, reprise de volée. Mais ouais, bon.
C'est dommage parce qu'un middle peut-être envoyé un peu moins fort mais un peu plus contrôlé et qui peut du coup setup ou être setup par autre chose, ça pourrait être une. De toute façon, ça peut être une addition intéressante au jeu de n'importe quel gaucher.
Bien
Le
sûr.
middle gauche.
Bien sûr, t'as une bonne jambe arrière en tant que gaucher, t'es
Mais ouais,
déjà
mais
très
je
bien.
trouve ça bizarre parce qu'il y a une certaine application dans son anglaise. Et t'as l'impression que dès que c'est du kick, non, juste tout ce que j'ai fait pour mettre des middles, c'est j'ai avoiné le sac comme une grosse brute.
ouais, clairement, il y a pas, ça manque beaucoup de travail. Après, on sait qu'il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en anglais. Il a un coach pour depuis quelques années maintenant. Il travaille énormément là-dessus. Le kickboxing, il le fait quand il est à l'ATT. Et puis voilà quoi. Je pense qu'il n'a pas basé son game là-dessus. On l'a bien compris. Parce qu'en face, par contre, c'est des beaux middle qu'il envoie.
Oui. Bah, pas nécessairement beaux, mais ils sont bien.
Ouais, ils sont bien. sont efficaces. Il
Ils
a une
sont
bonne
dans
jambe arrière,
le...
de toute
Oui,
façon,
il a une bonne
pour
jambe
Nova.
arrière. Elle va vite. Ça m'a surpris quand j'ai rematé le combat contre Frévola. Même pas juste sur son high kick de base, parce que là, je trouve qu'il y a quand même une grosse erreur de Frévola qui est bien capitalisée, mais c'est pas le high kick, je l'ai pas trouvé nécessairement dans la technique impressionnant. Tu vois, il a balancé la jambe haut et l'autre a fait. C'est surtout une erreur de Frévola. Non, c'est surtout quand il le lance au début de combat contre Frévola où je trouve que vraiment sa jambe va relativement vite.
Ouais, ça va vite, hein, ça va vite. Quand il décide de balancer le middle, boum, ça va vite
Après, ce serait une
direct.
option un peu moins viable parce que c'est gaucher contre gaucher.
Voilà, faudra plus utiliser la
Et
jambe
que je
avant,
pense
mais.
pas qu'il soit. Ouais, et je pense pas que. Il est bien parce que c'est sa jambe arrière, quoi.
À voir, voilà, c'est ça. On a discuté avec
Mais je sais pas.
Daniel qui disait que, a priori, il a une bonne jambe avant, mais moi je dis pas, faudra qu'on la voie. Faudra
Oui, après,
qu'on la voie.
le coach qui est en interview sur RMC Sport, il va pas te
C'est
dire.
clair.
Je
On verra
l'accuse
bien.
pas de mentir, tu vois, mais si de toute façon, s'il a une jambe avant toute pourrie, il te le dira pas, donc.
Ouais, c'est clair. Par contre, ce qui va être intéressant avec sa jambe arrière, c'est que la jambe avant de Dustin, elle est là.
Oui.
Sur les low kicks, ça peut faire et
Et puis il a jamais
il a jamais bloqué.
particulièrement checké les low kicks de Steen.
Ah, bah, il y a un combat dont on se souvient tous et qui lui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Hein. Et il
Ouais,
termine
que dire.
allongé au sol contre Jim Miller parce qu'il a pris des low kicks
Ah oui, bah puis
jusqu'à l'avant.
avant qu'il mette KO Geji,
Pas aussi,
il
ouais.
s'est fait savater la jambe. Hein.
Aussi, ouais. Donc il y a un vrai. Déjà debout, il y a une première clé, une première très bonne clé. Et en face, comme il envoie bien sa jambe, et qu'il n'a pas spécialement peur de se rapprocher pour envoyer ses low kicks, c'est plutôt intéressant.
Ouais, en termes de grappling, c'est un peu. Il y a clairement une faille dans le grappling défensif de Dustin Poirier, mais ça reste une ceinture noire et bien meilleure au sol que tous les gens que Saint-Denis a affrontés.
C'est clair. Après, ouais, voilà. C'est quand même assez rédhibitoire.
Après, il a l'air vraiment, de tout ce que j'ai vu de Benoît Saint-Denis, le grappling a l'air au niveau. Après, je sais pas s'il a de quoi l'imposer sur le très très haut niveau. Après, je pense que dans l'élite, quand j'ai rematé le combat contre. C'est le combat contre qui que j'ai maté là, contre l'Australien là.
Entre Danuka?
Voilà. Dan Hooker de Poirier. Je sais plus du tout ce que je voulais dire, j'ai complètement perdu. En train de penser. Oui, je pense que dans l'élite, c'est le combattant le plus adapté à ce que Benoît Saint-Denis ait une victoire.
Oui, d'accord, oui.
Parce que c'est le plus susceptible de tomber contre ce que Benoît Saint-Denis fait bien, à savoir être dur, rentrer dedans. J'ai parlé de ses problèmes défensifs, c'est que oui, il a tendance à penser qu'il est Willy Pep, il esquive le premier, puis après il recule dans la cage et après il en mange trois. Bon, après il a un bon menton, donc sans être exceptionnel, parce qu'il s'est déjà fait mettre KO. Mais il a quand même une. C'est pas un mec qui tombe au premier coup. Mais oui, il y a beaucoup de moments où il les prend et puis après il en prend deux et après il riposte parce qu'il est très bon en termes de riposte dans ces cas-là quand il se fait back contre la cage de prendre une saisie en clinch et balancer un uppercut un coup d'air sortir. Mais c'est dangereux de prendre un coup ou deux avant, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, contre quelqu'un qui frappe, donc il est susceptible. Il est plus susceptible. Ouais, c'est en fait, il est plus susceptible de faire le combat idéal pour BSD.
Oui.
Après, il y a Geji aussi, mais Geji, c'est autre chose en termes de frappe.
Oui. Et puis après, bon, Saint-Denis, il va être ouvert aussi.
Aussi, bien sûr. Il a montré, hein, il a montré que c'était pour eux qu'il prenait beaucoup de coups et que contrairement contre Poirier, ça. Ça pardonne pas. Maintenant, il a montré beaucoup de durabilité dans cette catégorie-là, en tout cas. C'est vraiment la catégorie qui lui a adapté. Et il a bien dur. On verra. De toute façon, ça va être un combat dur et ça va être probablement celui qui va être le plus dur qui va s'en sortir. Probablement.
Ouais, je vois bien l'expérience et la boxe plus propre de Poirier quand même, ça donne un avantage certain.
Ouais, en tout cas, en termes d'expérience, surtout à ce niveau-là. Ça va
Bah
être
et
très
puis
important.
il en a fait des. Je dis pas que Benoît Saint-Denis il a pas fait des guerres, mais il a pas fait de guerre contre un combattant d'élite. Dustin Poirier il a fait Max Holloway, il a fait Justin Gaethje deux
Ah
fois.
non, mais de toute façon, voilà, il a un résumé de taré, c'est clair. Il a un résumé de taré. Maintenant, voilà, c'est le gars en face. J'arrête d'être surpris par lui maintenant. J'ai compris que BSD, il a le potentiel. Puis il est jeune, hein, 27 ans, c'est rien, putain. Il est vraiment très jeune. Donc ouais, en tout cas, ça va être intéressant, quoi qu'il arrive. C'est surtout ce que je me dis. Au-delà d'aller dans les pronostics, machin, compagnie, on sait quelles sont les forces en présence. On sait avec quasi certitude que ça va être un combat fun. Maintenant, voilà.
Ouais, et puis après, faut voir Saint-Denis ce que ça donne quand ça dure plus de deux rounds aussi. Hein.
Ouais, et puis que l'adversité continue. On sait
Oui.
tous que Dustin, le combat,
Ah
il
bah au
continue et
quatrième,
qu'il
ce sera
grandit.
encore dur, quoi.
Ouais, et il grandit. Il est extrêmement résilient.
Non, mais parce que
Jamais
il a
la
été
faim.
que. Il a passé que deux fois le deuxième, je crois, Saint-Denis.
Je crois, ouais. Parce que
Parce
c'est ça.
que. Alors, il passe. Ouais, il y a un combat qui termine au troisième. Son deuxième combat, il le termine au troisième round par soumission. Et sinon, il n'y a que la décision contre sa défaite contre Dos Santos qui passe le deuxième.
Ah ouais, c'est pas
Et
beaucoup.
ça, c'est une vraie question quand t'es déjà à 15 combats, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Donc
C'est vrai.
c'est pour ça que moi, je vais me diriger vers Poirier par décision ou KO vers la fin.
Une fois n'est pas coutume, je n'aurai pas le même prono que toi. Je vais aller sur BSD par soumission au troisième.
C'est possible. En vrai, c'est possible. J'aurais pas nécessairement dit ça avant de refaire un peu de tape study, mais oui,
Voilà.
il y a les trous pour que Saint-Denis passe. Même si je
Et...
pense que sur tout un combat, Poirier a plus d'avantages, il y a les.
Bah c'est ça, je vois bien le scénario du combat long où Poirier finit par prendre le dessus.
Ouais. Kevin Holland contre Michael Page. Michael Page, si quelqu'un vous dit qu'il est champion du monde de kickboxing, tout de suite vous ignorez tout ce qu'il dit pour le reste de sa vie sur le kickboxing. Comme ça, c'est fait. Beaucoup de hype. Si vous voyez un highlight de Michael Page, vous verrez sûrement son genou sauté contre Cyborg, qui était à la fin de sa, à la fin de sa, à la fin de sa vie.
Tout court, ce que je veux dire, la fin de sa vie. Ouais, vraiment.
Ouais, par contre, dès qu'il y a un adversaire qui commence à avoir un petit peu de. Dans le chat, souvent, c'est des décisions chiantes et un peu nulles. Je l'aime pas beaucoup. Kevin Holland devrait avoir les armes, je pense, pour le battre. Mais c'est inconsistant, Kevin Holland.
C'est le mec le moins régulier, je crois, du roster actuel, je pense.
Oui. Et donc, il est tout à fait capable de. C'est d'un côté, je me dis, ouais, non, t'as les armes, toi, pour passer contre un Michael Page et bien lui rentrer dedans. Mais t'as aussi moyen de faire. Vous allez faire un petit combat, vous allez faire trois poses de Power Ranger au début du match et après et de, au début du combat, et puis après, ça va être chiant pendant trois rounds.
Ah ouais, mais c'est clairement, ouais, moi je vois vraiment ce scénario-là.
Ah, j'ai un peu peur.
Je sens qu'Hollande il va pas du tout faire le taf.
T'es en train de me déhyper sur la carte, hein, parce qu'on a déjà dit qu'il y avait deux combats qui avaient des chances que ce soit pourri, alors qu'on a dit que la carte elle était bien.
Ah bon, c'est quoi l'autre qu'on a dit déjà? Ah
Bah,
oui,
le main
O'Malley.
event, on a dit qu'il y avait quand
Ouais,
même,
ouais.
y a quand même un monde où c'est pas ouf. Hein.
Ouais, c'est ça.
Je suis pas
Je
convaincu.
comprends.
Je pense que ce sera potentiellement intéressant parce que j'ai envie de voir O'Malley ce qu'il peut faire surtout. Je pensais pas que. L'opinion hipster, c'est plutôt d'être sur Malone Vera que sur Sean O'Malley. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment un monde où c'est un combat pas très très palpitant.
Ouais, non, moi je pense qu'il peut plus. MVP, à chaque fois que ça a été dur, l'adversité, il a fait un combat chiant comme la mort.
Oui, il s'est fait mettre KO.
Voilà,
J'ai pas envie.
où il a perdu, tout simplement. Et Hollande, bah c'est Hollande, quoi. Donc, ouais, moi je suis pas hyper confiant.
Ouais. Beaucoup plus confiant par contre sur Gilbert Burns contre Jack Della Maddalena. J'aime beaucoup Maddalena, j'aime beaucoup son anglaise.
Ouais, il est très
Et
très
Gilbert
belle.
Burns, c'est le combattant Henri Hooft
Ouais.
quintessentiel.
Oui, et puis jamais dans un combat chiant, donc c'est bon. Par contre, il a décidé d'être beaucoup plus grappleur ce temps-ci, et ça, c'est bien.
Bah, c'est bien, oui, parce que je trouve ça très bien comme méthode de transformer les jujitsu-kens en crochet low kick.
Ouais.
Non, non, mais en vrai, je trouve que c'est vraiment un truc. C'est une formule qui marche très bien.
Ouais, ils l'ont
Je
bien
trouve
fait.
que le fait de leur donner un style agressif leur permet potentiellement d'initier un style agressif et simple. Je pense que ça permet de les équiper pour être compétent en pied-point assez rapidement, ouais, sans que ce soit très compliqué. Et en plus, ça les ramène au contact et ça peut du coup les amener plus près de leur force. Je trouve que c'est plutôt un truc qui marche pas mal.
Ouais, non, mais c'est clair. Ils ont un bon système qui leur permettra de vraiment faire le taf, quoi. Et qui leur permet de faire le taf, donc c'est très bien. Maintenant qu'il a bien travaillé pendant des années comme ça, là, il décide de faire un peu plus de grappling, d'utiliser sa vraie force. Et ça marche bien, ça lui réussit.
Ah non, ça va être très intéressant, je sais pas trop. On n'a pas vu Maddalena contre un grappleur de ce calibre-là.
Ouais.
Donc, je sais pas trop quoi attendre de ce combat, mais j'ai hâte de voir. Ouais, j'aime beaucoup.
Non, mais lui, c'est un très bon boxeur, et puis en plus, j'aime bien parce qu'il attend pas. Tout de suite, il commence, il met en place sa boxe, tu vois, il perd pas son temps. Hop, tout de suite, ça commence à débiter, les combinaisons. Ouais, non, franchement, ouais. Ça va être un bon combat, ça c'est sûr.
Bon, c'est peut-être oui, c'est un des combats que j'attends le plus sur la carte. Avec le retour de Petroyat contre Song Yadong aussi, Song Yadong que j'aime beaucoup. C'est un très 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 bon poids plume. Donc ouais non, on a deux combats très très intéressants pour démarrer la carte, je trouve.
Ouais.
Bon, j'espère que Petroyat, que j'aime beaucoup, va revenir au top. Parce qu'il faut que ce soit maintenant d'ailleurs, parce qu'il a 31 ans, du coup,
Ah
s'il
bah
veut
c'est maintenant ou jamais un peu, ouais.
Accomplir son potentiel, sa destinée. Parce que je pense, moi je reste convaincu que dans cette catégorie-là, en termes de talent, c'est le meilleur.
Intrinsèquement, c'est le meilleur de la catégorie. Il a tout. Il a tout, tout, tout.
Il a
Mais
tout. Il a l'anglaise, la lutte, ses jambes, c'est pas mal. Il a pas toujours le cerveau.
Ouais, c'est ça. L'analyse clairement montre que c'est mentalement le problème. Parce que pour le reste, c'est bon. Tout est là. Tout. Et il a montré dans tous ses combats qu'il avait tout. Mais mentalement, il y a un truc qui va pas.
Oui, et puis Merab Dvalishvili, c'est un très mauvais match.
Ouais, après ces mecs-là, c'est relou.
Je pense que Dvalishvili, c'est un très mauvais match, ouais, pour lui. Mais oui, non, autrement, je pense qu'en termes de talent pur, c'est très 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 fort et ça devrait. Il devrait faire mieux que ce qu'il a fait récemment. C'est assez. De voir un combattant de ce niveau-là sur trois défaites de suite, c'est pas un truc
Ouais, c'est pas.
anodin. Et ouais, Song Yadong, qu'est-ce qu'il a fait dernièrement, Song Yadong? Oui, c'est ça, il a mis KO Ricky Simon et il a battu Chris Gutierrez récemment en 5 rounds. Chris Gutierrez, c'est celui qui a mis à la retraite Frankie Edgar, de la façon la plus triste du monde.
Ah, c'est lui? Oui, c'est lui. Ouais. Oui,
Oh, oui, c'est lui.
C'est vrai.
Oui, avec son genou sauté là.
Ah ouais.
Qui est pas un mauvais combattant d'ailleurs, ce mec-là.
Ouais,
Bref.
bien sûr.
Mais oui, non, ça va. Je pense que ça va être. C'est un très bon step down pour Yann, je trouve. Combattant dangereux, mais un peu moins que les trois tueurs qu'il a pris avant. C'est le bon combat pour se relancer, tout en n'étant pas un cadeau. Donc ouais, non, très bien cette carte. Et les prélims, on avait quoi qui nous intéressait? Gamrot contre Dos Anjos.
Ouais, ça va être sympa, ça.
Ah, à mon avis, je pense que quand il avait 5 ans de moins, Dos Anjos, ça aurait été bien. Là, je le vois un peu. Je pense qu'il a peut-être manqué un peu de jus et se faire grinder. Mais...
Bah, c'est probable quand même, parce que ça a toujours été. Après, c'est un bon grappleur, mais là, c'est compliqué. Ça
ouais, non, mais la décision où tu vois, je vois bien la décision où tu vois encore, tu vois le combattant qu'il a été. 2 minutes par round, mais les 3 autres minutes, c'est un peu trop compliqué
Ouais,
et
c'est
il
ça.
se fait grinder, tu vois.
C'est ça.
Et tu te dis, ouais, bah oui, il y a 4 ans, il l'aurait fait. Mais parce que là, il a 39 ans, quoi. Et oui, et Pedro Munhoz contre Kyler Phillips, dans mon souvenir, j'avais bien aimé quand je l'avais vu. Bantamweight, dont je me rappelle plutôt une bonne anglaise, si je me rappelle bien. Et qui vient de battre Raoni Barcelos. Enfin, il vient de battre en août de l'année dernière.
Non, lui, je ça me dit rien.
Bah, il a une victoire sur Song Yadong.
Ok.
Et oui, non, mais il a pas. Il est arrivé en 2020, mais il a pas boxé beaucoup. Depuis 2021, il a que deux combats depuis. En 2022 et 2023, il a qu'un combat par an.
Ouais, d'accord.
Mais oui, Raoni Barcelos, j'aime bien et Song Yadong, c'est fort. Du coup, on va suivre contre Pedro Munhoz. Ça peut être un 28 ans, ça peut être 1m73, donc plutôt grand pour la cadet. Non, ouais, je suis quand même plutôt pas mal hypé par cette carte. Ce qui est pas
Ouais,
super
très très
habituel à
belle carte.
l'UFC. C'est une très très belle carte. Ce qui est pas mal, parce que tu aurais pu penser que juste avant le 300, tu aurais un pay-per-view un peu plus faible. Mais on va comparer, mais je suis pas sûr d'être.
Ouais, non, mais le 300, il est sympa, c'est sûr, mais je sais pas, j'aime bien celui-ci.
J'aime bien le 299, moi. Non, le 3, non, c'est un peu mieux le 300 quand même.
Oui, non, bah, ils ont quand même fait quelque chose
de
consistant. Ils ont fini par faire quelque chose de consistant, qui est moins bien que publicité, mais qui est très bien, qui est excellent.
Non, en vrai, je vois la profondeur de la carte, là, c'est quand même vraiment pas mal. Ouais. Le main event, c'est une déception absolue, c'est Jamal Hill, quoi. Ouais. Mais non, mais je vois, tu vois qu'il y a du Sodiq Youssouf contre Diego Lopez, qu'il y a du Davison Figueiredo contre Cody Garbrandt, ça a été fait juste pour moi, ça.
Ah mais clairement, ça c'est ce combat exceptionnel. Diego Lopez, c'est celui qui a le nuque longue, là.
Ouais.
Bien. Ouais.
Qui a battu mon gars sur Gavin Tucker.
Ouais, exact.
Ouais, il y a Jessica Andrade, il y a Bobby Green contre Jim Miller pour que Jim Miller ait été sur le 100, le 200 et le 300.
Ouais, le 300.
Donc ouais, non, c'est pas mal quand même. Bref, je pense que ça nous amène à 1h30 d'émission tout pile. On est vraiment les rois du timing. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, on a parlé de Bloody Elbow, on a parlé de l'UFC, on a parlé de du Glory. Il y a eu l'annonce des deux derniers noms et des match-ups du K1 World Max. On en reparlera plus en détail
la
semaine de l'event. De toute façon, on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer tout ce dont on a parlé cette semaine.
Ouais.
De toute façon, je vais vous spoiler tout de suite, les deux derniers noms ne sont pas ouf. C'est un peu des doux qui sort. Il y a un japonais, mais il ne s'agit pas de Masaaki Nouhiri. Je suis donc très fâché contre Carlos Kikuta.
Ouais, franchement, je sais pas quel a été leur embrouille, mais c'est nul.
Ah, c'est très... après, c'est très nul. Alors, en vrai, je trouve que même sans Nouhiri, le roster est assez bien pour faire un tournoi qui est quand même intéressant et dont le gagnant sera un top 10 légitime.
Ah non, toujours, même s'il vient pas. Mais...
Oui, mais c'est la déception, c'est le truc rare, c'est l'acte manqué, quoi. C'était le mec qu'il te fallait pour starifier le truc au Japon, quoi.
Et voilà, et puis ça aurait dû être son moment à lui, en fait, un peu, quelque part.
Bah oui, ça, c'est vraiment... c'est dommage. C'est dommage. C'était peut-être son occasion de reprendre le manteau de Takeru, quoi. Bref.
Bon.
Dommage. Et oui, et les match-ups sont très japonais. C'est-à-dire que c'est pas ce que j'aurais fait, mais on en reparlera. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Baki Doumbé, Ngannou contre Joshua, l'UFC 299. Et puis, j'ai réussi à mentionner une seule fois que c'était pas une grosse semaine pour le MMA français quand même.
C'était
une grosse semaine. Bref, très grosse semaine pour le MMA français. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Merci beaucoup, à plus.
Salut.